7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 avril et un coup de fouet pour commencer, un coup de fouet pour l'emploi. Les projets d'embauche au plus haut, du jamais vu depuis 10 ans, les entreprises retrouvent le sourire, mais elles ont du mal à recruter. Pourquoi ? Explication avec Nicolas Barré à 7h15. Pour ou contre le vote blanc ? Faut-il le comptabiliser dans les élections ? C'est un grand débat, c'est un grand sujet d'ailleurs du grand débat. Emmanuel Macron va trancher, l'édito de Jean-Michel Apathy à 7h40. Et on va parler aussi du business du running, encore plus juteux que le foot. En coulisses, la guerre des équipements fait rage. Un Français sur cinq pratique la course à pied. Dossier complet à 7h20 d'Europe 1 va plus loin.
T'as peur de la mort ou pas, toi ?
On nous fait vivre et pourquoi on reste pas tout le temps sur Terre ? C'est la question que je me pose.
La philosophie, ça peut aider à changer le monde.
Les grandes questions de la vie dans la bouche d'enfants de 7 à 10 ans. Oui, ils répondent à ces questions existentielles dans un film documentaire qui sort mercredi prochain au cinéma. Vous serez surpris, vous serez touché. L'initiateur du projet, c'est le philosophe Frédéric Lenoir et il est mon invité. Il sera ici dans notre studio à 7h45. Voilà pour le programme. Merci de nous faire confiance. C'est vendredi, on est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Et merci de nous avoir choisis en ce vendredi 12 avril. Bon réveil à tous, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Hélène Zellani, toujours sur le pont, toujours souriante et pro. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Julian Assange dort désormais en prison à Londres. Le fondateur de Wikileaks a été arrêté hier à l'ambassade d'Équateur. Les États-Unis espèrent maintenant son extradition. Et encore un nouveau retard pour l'EPR de Flamanville. 8 soudures sont défectueuses sur le réacteur. Le chantier risque encore d'être décalé d'un an. Et puis on vous racontera la terrible histoire d'un jeune apprenti de 17 ans devenu souffre-douleur de ses collègues pendant des mois près de Marseille.
8h15, Audrey Crespo-Mara recevra Gilles Boyer, candidat de la majorité aux européennes. Première interview depuis qu'il a quitté Matignon, où il conseillait le Premier ministre Édouard Philippe.
Europe 1.
Il aura passé presque 7 ans reclus dans une pièce de 18 mètres carrés à l'ambassade d'Équateur à Londres. Julian Assange a été sorti de force hier par la police britannique, visage blafard, très affaibli. Le fondateur de Wikileaks avait l'air d'un vieil homme. Il a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Mais maintenant, il veut surtout contester la demande d'extradition de Washington. Il faut dire que Julian Assange et les États-Unis entretiennent une relation pour le moins tumultueuse. À New York, Xavier Yvon.
La première bombe lâchée par Julian Assange sur l'Amérique éclate en 2010. Wikileaks publie des centaines de milliers de documents top secrets de l'armée américaine. Il révèle des bavures et des pratiques douteuses en Irak et en Afghanistan. Et puis ce sont la CIA et ses méthodes de cyberespionnage qui se retrouveront exposées au grand jour par le site de Julian Assange. En 2016, en pleine campagne présidentielle, Wikileaks révèle cette fois des milliers d'emails de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Ils ont été volés par des hackers russes, mais ça ne fait rien. Ils font très mal à la candidate démocrate pour le plus grand plaisir de son adversaire, Donald Trump.
Wikileaks, I love Wikileaks.
J'adore Wikileaks, dit alors le futur président des États-Unis, qui ne va pas cesser ensuite d'y faire référence en meeting.
Wikileaks, 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 Wikileaks.
Mais hier, interrogé dans le bureau ovale sur l'arrestation de Julian Assange, Donald Trump avait soudain perdu la mémoire.
I know nothing about Wikileaks. It's not my thing.
Je ne sais rien à propos de Wikileaks, ce n'est pas mon truc, a assuré le président américain. Son administration, elle, travaille depuis des mois à l'extradition de Julian Assange. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
La France seule contre tous, Paris s'oppose à l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. En tout cas, elle votera contre lundi à Bruxelles, alors que tous les autres États membres ont déjà approuvé le principe. Emmanuel Macron refuse tout accord commercial avec un pays qui n'a pas signé l'accord de Paris sur le climat.
L'addition va encore s'alourdir pour l'EPR de Flamanville.
Le prototype de réacteur nucléaire nouvelle génération en construction dans la Manche va forcément enregistrer un nouveau retard et donc des coûts supplémentaires. Un groupe d'experts mandaté par l'autorité de sûreté nucléaire estime en effet que 8 soudures ne sont pas conformes, Maud Descamps.
Pour accéder aux 8 soudures qui posent problème, il va falloir casser du béton, mais pas n'importe lequel. Celui des murs qui entourent le réacteur des travaux qui risque donc de paralyser à nouveau le chantier de l'EPR qui comptabilise déjà 8 années de retard. La facture, elle aussi, s'annonce conséquente. L'an dernier, EDF a remis aux normes une vingtaine de soudures de l'EPR. Des soudures facilement accessible, qui avait déjà retardé d'un an le chantier et coûté 400 millions d'euros. Mais cette fois, le chantier s'annonce bien plus compliqué. Et si l'autorité de sûreté nucléaire suit les recommandations du groupe d'experts, alors le chantier pourrait être décalé de plusieurs mois, voire un an. Un coup dur de plus, donc, pour ce qui devait être le fleuron du nucléaire français et qui est devenu la bête noire d'EDF. L'EPR de Flamanville devait coûter 3,3 milliards d'euros. La facture a déjà été multipliée par 3, 11 milliards, et devrait encore s'alourdir avec ce nouveau chantier.
Maude Descamps, les intentions d'embauche sont au plus haut depuis 10 ans pour les entreprises françaises, soit 350 000 projets en plus. Les détails avec Nicolas Barré dans quelques minutes. On va prendre les 7h04.
Écoutez bien cette histoire de harcèlement vécue par un jeune apprenti, ça s'est passé près de Marseille.
Oui, à Allo, un garçon de 17 ans, pendant des mois, a été le souffre-douleur de ses collègues de travail. Insultes, brimades, sévices. Ces 8 agresseurs ont été arrêtés et seront jugés. La police estime que c'est un miracle que cet adolescent s'en soit plutôt bien sorti. Écoutez le récit de Nathalie Chevance.
Humiliation, sévices et violences quotidiennes. Pendant un an, le jeune garçon n'a rien dit à ses parents de peur de les décevoir. Eux qui avaient réussi à décrocher pour lui ce contrat d'apprentissage. Jusqu'au jour où ses collègues de travail sont allés trop loin. Ils l'ont jeté dans un fourgon à bestiaux rempli d'excréments. L'adolescent choqué revient chez lui avec un genou luxé. Il se met à parler et il raconte. Enfermé dans une poubelle, menacé avec des armes, tasé avec un pistolet, obligé de se déguiser en fille, les coups dans les parties génitales. Et à chaque fois, les collègues prennent des photos pour rire du gentil stagiaire. Incroyable emprise, comme le souligne le commissaire Gava.
J'avoue qu'en 30 ans de carrière, c'est la première fois où je suis confronté à ce genre de situation, à la fois sur la durée, puisque ça dure un peu plus d'un an, et à la fois par la répétition et quelque part l'imagination des personnes qui l'agressaient. Le pauvre garçon qui se dit que s'il veut être accepté dans le groupe dans lequel il veut travailler, ben, peut-être cela fait-il partie des traditions, des rites, mais ben, il a accepté tout ça.
Alors aujourd'hui, l'adolescent a retrouvé le sourire, un nouveau contrat d'apprentissage. Ces agresseurs ont expliqué qu'ils n'avaient pas conscience de la gravité de leurs actes. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis Pierre Palmade, accusé à tort de viol, l'humoriste avait été placé en garde à vue hier à Paris. Son accusateur a reconnu avoir menti. On va y revenir à 7h30.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, avec une polémique qui agite l'opposition. La nomination de la femme du patron des députés de la majorité à la Française des Jeux. A tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
C'est la suite du journal avec Hélène Zélani. Y a-t-il eu mélange des genres? Gilles Legendre, le président de la République En Marche à l'Assemblée, est la cible des critiques de l'opposition.
Oui, son épouse a été nommée directrice de la communication de la Française des Jeux, annonce qui est tombée juste avant l'adoption définitive de la loi Pacte, qui prévoit justement la privatisation de la FDJ. Aurélie Herbemont.
République des copains en marche, mélange des genres, conflit d'intérêts. C'est peu dire que la nomination de Raphaël Rabatel à la communication de la Française des Jeux, au moment même de sa privatisation, scandalise l'opposition, à l'image du député LR Daniel Fasquel.
C'est une situation qui, moi, me choque profondément. On est très loin de la morale érigée en dogme par M. Macron pendant sa campagne électorale. J'ai beaucoup d'estime pour M. Legendre. Je ne connais pas son épouse et je ne leur fais pas un procès d'intention, mais je leur dis qu'à tout le moins, là, il y a une maladresse qui est très grave.
L'épouse de Gilles Legendre a occupé des hautes fonctions chez Gaz de France, Caisse d'épargne. La majorité dénonce donc une polémique dégueulasse. Aurore Berger est porte-parole de La République En Marche.
Ce n'est pas la femme de Gilles Legendre qui a été choisie, c'est tout simplement une femme qui est compétente et qui a le droit d'avoir une carrière indépendamment de celle de son mari. Douter de la compétence d'une femme alors qu'elle est juste nommée à un poste important mais qu'elle a déjà occupé des responsabilités, c'est vraiment indigne.
Pas sûr que ces arguments suffisent à faire taire les critiques d'une opposition bien décidée à ne rien laisser passer à la majorité.
Aurélie Herbemont. Non à la hausse de près de 6% de l'électricité prévue cet été, l'association de défense des consommateurs CLCV et l'UFC Que Choisir adresse une lettre ouverte aujourd'hui à Emmanuel Macron pour lui demander d'empêcher cette augmentation. Selon les deux associations, cela reviendrait à tourner le dos aux Français en termes de pouvoir d'achat.
Si vous rêvez de posséder la montre qui a passé plus de 200 jours dans la Station Spatiale Internationale, eh bien c'est le moment ou jamais.
Oui, ce soir, une vente aux enchères se tient chez Arcurial à Paris. Sont proposés des objets liés à l'aventure spatiale, dont la plus belle pièce est cette fameuse montre ultra perfectionnée, prix de départ 10 000 euros, mais le prix risque de s'envoler. Écoutez Geoffroy Ader, expert en horlogerie chez Arcurial.
Ce modèle Skywalker X33 est un modèle ultra performant qui a été développé grâce au travail des astronautes eux-mêmes. Elle a des fonctions très particulières, notamment une fonction de temps zéro qui permet, si vous voulez, de savoir combien on passe de temps dans la station. Alors là, en l'occurrence, la maison Omega qui fait don de cette montre a été certainement la marque horlogère la plus importante au cours du XXe siècle dans la conquête de l'espace. Lorsque le premier homme est arrivé sur la Lune, il avait à son poignet une Oméga. Le fait aujourd'hui de pouvoir acquérir une montre qui est allée dans l'espace, c'est une chance unique et extraordinaire.
Voilà, chance unique et extraordinaire. Propos recueillis par l'heure d'Autriche pour Europe 1. Coup d'envoi de la vente à 19h. Les bénéfices seront versés à une association qui accompagne la carrière de jeunes étudiants dans la recherche spatiale.
Vous avez l'heure ?
7h10. Moi, je l'ai, moi.
Voilà. Vous avez l'heure ?
Oui, il est 7h10.
Magnifique.
Il faut y aller.
C'était Hélène Zelani. Merci, Hélène.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Justement, Nico, c'est l'heure de retrouver Carole Ferry sur le terrain.
Bonjour, chère Carole.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Alors, vous êtes où ce matin ?
Écoutez, je suis de retour à l'école primaire du Parc à Vanves. Est-ce que vous vous souvenez, Nikos, chers auditeurs, de ces élèves de CM2 qui avaient organisé une manifestation contre la cantine parce que c'était pas bon ?
C'est la petite, il y avait une petite.
Une petite Lily, exactement, voilà. Avec ses copines en tête de cortège, pancarte enfant affamé à la main. Petit retour en arrière.
Moi, j'aime pas trop l'omelette. Ça ressemble un peu à du caoutchouc, mais qu'on peut manger, quoi. C'est surtout le poisson qui est pas bon, en fait. Il y a beaucoup de sauce. La sauce, c'est pas bon. Le poisson, il est sec et ça patauge un peu dans l'eau.
Alors, vous êtes retourné sur place. Vous avez vérifié si les plats sont meilleurs, c'est ça ?
Je vous l'avais promis, donc j'y suis allée. Hier midi, au menu, vous aviez rillettes de sardines, steak haché, blé à la ratatouille et une orange en dessert.
Est-ce qu'elle a changé la cantine ?
Oui.
Par exemple, les sauces, bah, y en a moins qui débordent, il y a moins de gras et parfois ils mettent les sauces à côté alors qu'avant ils mettaient en plein milieu.
Donc ça te permet de choisir si tu veux mettre de la sauce ou pas ?
Oui, c'est ça.
Et toi Lily alors, est-ce que t'es contente ? Est-ce que t'as l'impression que ce que t'as fait ça a servi à quelque chose ?
Bah oui, ils sont plus contents les élèves parce que ça s'est amélioré. Enfin, on sent sur leur visage. Ils regardent en souriant leur nourriture et plus en faisant « Ah, ça a l'air pas bon » et tout ça. Et maintenant ils goûtent. Donc ça, c'est bien.
Mais ça a l'air bon tout ça, dites-moi. On a envie de goûter aussi en studio avec Céline Lacochet, Nicolas Barré.
Je pense que vous êtes le bienvenu, Nico, hein, pas de soucis.
Bon, qu'est-ce qui a permis cette amélioration concrètement, Carole ?
Alors déjà, l'entreprise qui prépare les repas a revu la recette de ses sauces, la cuisson de certains produits. Et puis l'adjointe au maire en charge de l'éducation, Xavier Martin, a fait des choses, vous allez voir, très simples.
Alors nous avons fait passer des consignes surtout auprès des équipes qui servent les enfants, puisque les remarques qui revenaient étaient il y a trop d'eau ou trop de sauce, trop de jus. Donc on a demandé effectivement aux professionnels de faire attention et dans certains cas d'utiliser au lieu des louches, des cuillères qui ont des petits trous afin d'évacuer le liquide avant de servir l'enfant. On a demandé aussi à ce qu'ils servent des entrées nature sans vinaigrette ou sauce. On a décidé effectivement d'échanger aussi plus avec les enfants.
Comme voilà, quoi, et hein. cet échange, hein, comme quoi il suffit de pas grand-chose parfois.
Voilà,
et cet échange, il se fait grâce à un observatoire du goût. Tous les jours, maintenant, vous avez un groupe d'enfants qui remplit un questionnaire avec des smileys. Vous savez, le bonhomme très content, oui, le bonhomme pas content. Ils peuvent aussi ajouter des commentaires. Et alors, hier, globalement, le menu avait le sourire.
Ben, vous savez quoi ? C'est très sympa. Je trouve ça vraiment très sympa. Et les enfants ont été entendus. Ça crée du lien. Ça va mieux à la cantine de l'école primaire du Parc à Vanves. Merci, Carole Ferry. Et bonne journée à vous.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nikos.
On parle de quoi dans quelques instants ?
Eh bien, une bonne nouvelle. Les intentions d'embauche en France par les entreprises sont au plus haut. Alors pourquoi ? Pour qui ? Je vous dis tout dans un instant.
Super, avec plaisir. À 7h20, encore plus fort que le business du foot, celui du running. Un Français sur 5 pratique la course à pied et y consacre en moyenne plus de 500 euros par an. En coulisses, c'est la guerre des équipementiers. Elle fait rage. On en parle dans Europe 1 va plus loin à l'occasion du marathon de Paris qui se déroulera ce dimanche. A tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h14. Il est 7h16, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
25 ans après le naufrage de l'Estonia au large de la Finlande, un millier de rescapés et d'ayants droit demandent réparation en France, notamment à Bureau Veritas, le certificateur du navire. Julian Assange va s'opposer à la demande d'extradition des États-Unis. Le fondateur de Wikileaks, qui a dévoilé des milliers de documents américains classés secret défense, a été arrêté hier à Londres. Donald Trump participera aux commémorations des 75 ans du débarquement. Il se rendra le 6 juin en Normandie.
Europe 1.
Et c'est l'heure, Nikos, de l'édito Eco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Et nous y sommes avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nikos.
Alors c'est une bonne nouvelle, les intentions d'embauche sont au plus haut et les entreprises rencontrent même de plus en plus de difficultés à recruter les bons profils. Comment vous l'expliquez ?
Oui, les intentions d'embauche d'abord sont vraiment au plus haut, plus 15% cette année, donc c'est considérable. Les projets de recrutement atteignent 2,7 millions d'emplois. Jamais depuis que les statistiques existent, les intentions d'embauche des entreprises n'avaient été aussi élevées. Alors évidemment, une intention ne vaut pas CDI, mais enfin quand même, Pôle emploi précise que 80% de ces intentions se traduisent par un contrat. Donc vous voyez, ce sont des chiffres très encourageants. Et d'ailleurs, dans 45% des cas, ce contrat, c'est un CDI et pas un CDD.
D'accord. Et dans quel secteur on embauche le plus ?
Alors, transport, logistique, ça représente un tiers des intentions. Et puis ensuite, la construction, un quart. Le gros de la demande, ça porte sur des emplois moyennement ou peu qualifiés. Les employeurs cherchent surtout des candidats dans des métiers de service. Par exemple, dans la restauration, on manque en permanence d'employés de cuisine, d'apprentis, de serveurs, etc. Peut-être parce que ce sont des métiers qui ont la réputation d'être durs, avec de longs horaires ou des horaires décalés. Ce qui m'amène à un deuxième constat qui est moins positif, c'est qu'une entreprise sur deux en France, aujourd'hui, dit qu'elle a des difficultés à recruter. Et ça, on n'a jamais vu ça depuis plus de 10 ans.
Ouais, alors j'entends ce que vous dites, hein, les intentions d'embauche sont au plus haut, mais il est difficile de recruter. Mais le chômage ne baisse pas, je ne comprends pas le paradoxe.
Et pourtant, voilà, on a 3,6 millions de chômeurs d'un côté et 2,7 millions d'intentions d'embauche par les entreprises. Alors, ce paradoxe, ça s'explique par le fait qu'on a un énorme problème de formation, en tout cas de décalage entre les compétences recherchées et celles qui sont disponibles. Il faut absolument que la réforme de la formation professionnelle qui a été votée soit vraiment mise en œuvre dans les faits. Il faut aussi, comme le recommande de l'OCDE, que notre politique d'assurance chômage, qui ne favorise pas assez le retour à l'emploi, eh bien soit modifiée. Ça fait que trop de gens alternent en fait entre une petite activité et des périodes d'indemnisation, ce qui fait qu'ils perdent progressivement en compétences. Mais vu les besoins des entreprises, rien n'empêcherait, pour peu que ces réformes soient vraiment mises en œuvre, que le chômage soit deux fois plus faible en France, comme c'est le cas d'ailleurs, vous le savez, dans beaucoup de pays qui nous entourent.
En Europe. Alors le top 3 des régions les plus dynamiques pour l'emploi, celle où il y a le plus d'offres en fait, Nicolas, sont le Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France.
Voilà, c'est là qu'il faut aller.
Très bien. Nicolas Barré, c'était l'édito Éco.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin ce matin sur le business du running. Le marché explose, on en parle, Nikos, à l'occasion de la 43e édition du Marathon de Paris qui va se dérouler ce dimanche. Il y a près de 60 000 inscrits, un chiffre record.
Et il y a plus de 13 millions de pratiquants en France, ça veut dire un Français sur 5. Bonjour Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Bonjour.
Alors, vous avez épluché tous les chiffres de ce marché florissant. Il y a de quoi avoir le tournis.
Oui, si je vous dis sport et business, vous allez sûrement penser au foot. Eh bien non, le marché du running pèse deux fois plus, 850 millions d'euros par an. Et le budget annuel d'un coureur, le panier moyen de ses dépenses, c'est 524 euros. Donc, on va décortiquer ce budget. Et pour ça, j'ai d'abord rencontré Isabelle. Elle a 42 ans, elle va participer à son premier marathon dimanche. Elle a repris la course il y a 8-9 mois. Au départ, elle a utilisé 2-3 affaires de sport qui traînaient chez elle. Mais quand elle a voulu s'y mettre régulièrement, il a fallu passer à la caisse.
On m'a dit, bon, faudrait peut-être coter une montre. Donc, j'ai regardé, j'ai acheté une montre, achat conséquent. De suite, je me suis dit, mes baskets, elles sont pas terribles, elles datent un peu. Donc, je me suis acheté 2 paires de baskets, quelques leggings, quelques débardeurs, quelques sous-vêtements et paires de chaussettes. Si j'additionne toutes les dépenses, équipement, préparation, alimentation, dossard, j'arrive à 1260 euros. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Parce qu'on dit que le running, c'est un sport qui est pas cher. C'est vrai que c'est moins cher qu'un abonnement dans un club de tennis, mais au final, ça chiffre.
Alors évidemment, Isabelle ne va pas dépenser plus de 1000 euros chaque année. Hein. La montre connectée, par exemple, sera rentabilisée.
On l'achète une fois, ouais.
Voilà, et il faut dire aussi qu'elle l'a joué vraiment bon élève, hein, pour mettre toutes les chances de son côté, avec aussi des petites dépenses, quelques dizaines d'euros par-ci par-là pour les crèmes anti-frottement ou les gels pour gagner en endurance.
Mais qu'est-ce qui coûte le plus cher chez le coureur?
Alors les chaussures, hein, vraiment, parce qu'il faut les changer régulièrement. Ça représente 500 millions d'euros par an, et c'est clairement le nerf de la guerre pour les équipementiers. Le numéro 1 du marché, c'est le japonais Asics, très fort sur le plan technologique, mais aussi sur le plan marketing, avec des présentations de nouvelles chaussures, parfois dignes de celles d'Apple pour leur dernier iPhone. Alors le conseil, c'est de les changer tous les 500 km pour des chaussures de bonne qualité, compter 120 euros en moyenne. C'est ce qu'a dépensé Antoine, lui, à 25 ans, et va bientôt courir le semi-marathon de Nantes.
J'ai investi dans une nouvelle paire de chaussures il y a un mois à peu près. Mais c'était des chaussures qui coûtaient 120 euros, qui étaient plus adaptées en fait à ce que je visais comme objectif. Et si sinon j'ai quand même investi aussi dans le premium de l'application. Je me suis inscrit pour 6 mois et ça coûte 42 euros.
Voilà, l'application qu'Antoine utilise, c'est Fréquence Running, où il a pu établir un plan de préparation très précis. Là aussi, il y a une sacrée concurrence dans les applis qui créent des communautés et qui, le plus souvent, sont liées à une marque.
Ok, voilà pour l'équipement. Je peux m'inscrire maintenant, ça y est.
Alors oui, mais il va falloir payer, Nico. C'est, les prix ont nettement augmenté pour le marathon de Paris, exactement. Isabelle, elle a payé 120 euros, alors que c'était plutôt une cinquantaine d'euros en 2005. Ce sera moins cher pour les courses type 10 km ou semi-marathon. Antoine a dépensé une quarantaine d'euros pour son dossard au semi de Nantes. Et d'ailleurs, comme il vit à Bordeaux, il anticipe aussi une bonne centaine d'euros de dépenses en péage et essence. C'est vraiment toute cette logistique qu'il faut prendre en compte.
Et comment les marques font pour essayer d'attirer tous les coureurs ? C'est quoi l'entrée ?
C'est évidemment un secteur ultra concurrentiel avec 8 millions de paires de chaussures vendues chaque année. Le marketing est bien sûr primordial. Et ce qui est en train d'évoluer, c'est que les marques doivent maintenant répondre à toutes les catégories de coureurs. Et c'est ce qu'explique Virgile Caillet, directeur de l'Union Sport et Cycle, qui représente les entreprises du sport.
Les marques sont obligées de répondre à la segmentation des publics. Et ça, c'est vraiment un enjeu, j'allais dire, un peu nouveau, très difficile à adresser pour les marques, parce qu'il faut à la fois chercher les femmes, il faut à la fois chercher les plus jeunes du peloton, il faut à la fois chercher des gens pour qui le running n'est pas forcément le sport de prédilection, mais qui sont des coureurs occasionnels. Il faut aller chercher les runners assidus. Donc finalement, c'est des messages différents, des produits probablement différents, des lieux d'achat différents. Donc un travail marketing et de communication extrêmement chirurgicale à opérer pour les marques.
Il existe plus de 5000 courses en France chaque année. Alors, il n'y a évidemment pas que des marathons. Certaines sont très courtes, 5 ou 7 kilomètres. On peut y participer en famille, entre amis et même pour une bonne cause.
Le marathon est une ville en Grèce et c'était aussi, vous le savez, une guerre au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Ouais.
Effectivement, c'était 42 kilomètres entre Athènes et Marathon. Voilà, et merci pour ces chiffres, cher Aurélien. C'est un marché complètement fou. J'en profite pour dire bon courage aux 60 000 inscrits au marathon de Paris dimanche. Et juste pour les motiver, le record de la course est 2 heures, 5 minutes et 4 secondes.
Wow.
Moi, je le fais en 1,58.
Pas mal.
Sur un pied.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Si vous aussi, vous êtes accro-running ou alors vous ne comprenez pas du tout cette mode, dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Vous êtes très fit, je vous regarde tous les matins. Vous nous faites tous pâlir.
Vous courez aussi ?
Non, j'aime pas courir, moi.
Vous êtes très sportif ?
J'eus été.
Oui, d'accord. Et là, vous allez nous parler de quoi?
Je parle de maquillage, rien à voir. De maquillage, un petit appareil qui vous permet de retoucher toutes les petites imperfections de la peau. Un Photoshop dans la vraie vie.
Ça marche pour les hommes aussi?
Ça marche pour les hommes, c'est pour nous les hommes.
Ok, magnifique. Notez-le, j'arrive. À tout de suite. Anissa Mbida.
Les 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
Comment vous faites, chers amis qui nous écoutez le matin, lorsque vous êtes en retard, lorsque vous devez vous maquiller à la va-vite dans l'ascenseur, dans les transports, dans la voiture? C'est pas idéal. Mais Anissa, écoutez bien, a trouvé un petit appareil portable qui maquille comme une personne, en fait, comme un professionnel.
Comme un professionnel. Vous allez voir, c'est bluffant. On dirait que ça sort d'un film de science-fiction. Alors, ça ressemble un peu à un rasoir électrique.
D'accord.
Sauf qu'à l'extrémité, il n'y a pas de lame, mais une caméra qui va analyser la peau, repérer toutes les imperfections. Je sais pas moi, une tache, une cicatrice d'acné ou de la surpigmentation.
D'accord.
Et ensuite, elle va couvrir uniquement ses défauts, rien d'autre, avec juste ce qu'il faut de maquillage, grâce à une mini imprimante qui est intégrée dans l'appareil.
En 3D.
Et en fait, elle fait exactement le même travail qu'une maquilleuse professionnelle, vous savez, quand elle corrige uniquement les défauts avec un tout petit pinceau.
Vous avez essayé, ça marche ?
Non, j'ai pas essayé parce que ça marche pas sur les peaux foncées, ça marche pas
encore
sur les peaux foncées.
Okay.
Mais j'ai une démo, c'est très impressionnant, c'est extrêmement subtil, donc ça évite de mettre des couches et des couches de fond de teint ou des couches de poudre. Et surtout, on peut le faire tout seul, dans l'ascenseur, dans la voiture justement, quand on est pressé, et ça sera bien fait. Ça s'appelle Opté Précision Skincare, et ça sera disponible, mais ça sera pas disponible avant septembre.
Faut pas se tromper avec le rasoir.
Non,
du sourcil, oui. Alors aujourd'hui, plus de 80% des femmes se maquillent, surtout les yeux, pour le teint, c'est seulement une femme sur deux. Et on commence à se maquiller de plus en plus tôt, la plupart du temps c'est avant 16 ans.
Oui.
Et puis il y a des garçons qui se maquillent aussi.
À la télé, vous et moi, on se fait maquiller.
Écoutez, je vais vous dire, je passe plus de temps maquillé que ma femme. Donc, pour vous dire. Et ma fille ne comprend pas. Merci Anissa Mbida pour cette innovation très intéressante.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr.
Et ce matin, c'est Céline Dacosta qui prend le relais, puisque notre Laurent Cabrol national n'est pas avec nous exceptionnellement. Et vous avez la météo, il fait froid Céline.
Oui, on l'embrasse Laurent évidemment. Oui, il fait froid, c'est la faute à cette masse d'air polaire qui s'enfonce en ce moment sur la moitié nord de l'Europe.
Et je l'ai vu quand je prenais le taxi
ce matin,
je l'ai vu,
ben je voilà. Et vous l'avez bien senti j'imagine aussi, puisque les températures baissent encore un petit peu aujourd'hui, avec des gelées en pleine. Elles baisseront surtout samedi et dimanche, où dans la matinée on aura des valeurs très fraîches. Surtout sur la moitié nord, on attend une moyenne dimanche de moins 1 degré. Côté ciel en revanche, mis à part dans le sud-est, Alpes, Comté niçois et Corse, où le ciel est pluvieux et sera même orageux cet après-midi avec de la grêle. Le temps sera ensoleillé, on aura juste un ciel un petit peu plus nuageux dans le sud-ouest, mais là aussi, ça va se dégager dans l'après-midi.
Donc, du froid et du soleil.
Oui, c'est plutôt pas mal quand même.
Merci beaucoup Céline, à tout à l'heure.
À suivre, Nikos.
Le journal avec Céline Kallmann dans deux minutes, mais il y aura Jean-Michel Apathy aussi avec le vote blanc aux élections. Faut-il le prendre en compte ? À l'Élysée, il y a des pour et puis il y a des contre. Emmanuel Macron va trancher. Axel de Tarlet à 7h43. Plus de riches, plus de pauvres et au milieu, les classes moyennes qui souffrent. Danger pour nos démocraties, s'alarme l'OCDE. Et puis, quel est le sens de la vie ? Quel est le sens de la mort ? C'est quoi l'amour ? Les grandes questions. Eh bien, le philosophe Frédéric Lenoir les a posées à des enfants de 7 à 10 ans. Et puis ça a donné un film documentaire qui sort mercredi. Il sera mon invité à 7h45. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le vendredi 12 avril, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Les manifestations en Algérie aujourd'hui vont-elles être réprimées ? Nouvelle journée de mobilisation contre le pouvoir en place après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. La présidentielle a été fixée au 4 juillet par le nouveau chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah. Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Sébastien, jusqu'ici la répression s'est intensifiée donc ces derniers jours.
Oui, depuis quelques jours maintenant, les quarts de force anti-émeute ont envahi le centre-ville d'Alger. Des lignes de policiers casqués, boucliers en main, gardent les lieux symboliques où les manifestants avaient l'habitude de se regrouper. On a vu des rassemblements pourtant calmes et pacifiques réprimés à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. Il y a même eu des arrestations, mais ça n'a eu à ce stade aucun effet visible. Nous n'avons plus peur, disent les manifestants.
Ils ont essayé juste d'estimer un petit peu la situation face à la lacrymogène. Est-ce qu'ils vont se retirer ? Mais on n'a pas bougé. Et on va pas bouger. On a décidé que vous partez, tout le monde va partir.
Et tout le monde, eh bien, c'est non seulement le président par intérim nommé cette semaine, Abdelkader Ben Salah, mais aussi le chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, tous les proches de Bouteflika qui détiennent encore les clés du pouvoir. Ces étudiantes espèrent une marée humaine.
Ils essaient d'imposer ce Ben Salah, mais on n'accepte pas. On veut se libérer de ce gouvernement.
On veut un changement radical.
Et ils rejettent massivement le scénario d'une élection présidentielle dès le 4 juillet, comme annoncé, trop tôt, trop vite, et surtout une aucune confiance dans les hommes de Bouteflika pour organiser un scrutin libre.
Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Et puis au Soudan, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir à Khartoum devant le siège de l'armée, malgré un couvre-feu imposé. Hier, un coup d'état militaire a renversé le président Omar el-Béchir, qui dirigeait le pays depuis 30 ans. L'Union européenne a appelé l'armée à un transfert rapide du pouvoir aux civils. Dans l'actualité également, les intentions d'embauche en France au plus haut depuis 10 ans pour les entreprises. 15% d'intentions de recrutement en plus par rapport à l'année dernière.
On y reviendra dès le début du journal de 8h avec David Doucan.
Europe 1, il est 7h32.
C'était un gros mensonge. L'acteur Pierre Palmade est ressorti libre hier de sa garde à vue.
Oui, l'humoriste de 51 ans a été interrogé pendant de longues heures par la police judiciaire, accusé de viol par un jeune homme de 20 ans. Mais ce dernier est finalement revenu sur ses accusations. Les précisions de Pierre de Cossette.
Le plaignant n'a pas tenu longtemps face aux enquêteurs. Il s'est rétracté. Ses accusations, la police judiciaire les avait d'emblée considérées avec prudence parce que l'appel au 17, c'est Pierre Palmade qui l'avait composé. Après une rencontre dans une boîte gay du quartier du Marais, les deux hommes avaient prolongé la soirée chez l'humoriste, non loin de là, jusqu'à ce qu'au petit matin, peut-être sous l'effet de la cocaïne, le jeune homme commence à s'en prendre à l'appartement. À leur arrivée, les policiers trouvent des objets brisés par terre, ainsi qu'un écran plat, de la vaisselle, des bouteilles d'alcool. Surexcité, le jeune homme accuse alors Pierre Palmade de viol et afin de tirer tout ça au clair, tous deux sont placés en garde à vue. Le comédien, mis hors de cause hier soir après une dizaine d'heures devant les policiers, souhaite aujourd'hui passer à autre chose, nous dit son entourage. Son accusateur, lui, était toujours entendu hier soir par la PJ.
Pierre de Cossette du service politique. Police-Justice d'Europe 1, une nomination qui suscite la polémique. La femme de Gilles Legendre, président du groupe majoritaire à l'Assemblée, choisie pour devenir la directrice de la communication de la Française des Jeux, annonce qui est tombée juste avant l'adoption définitive de la loi Pacte, loi qui prévoit justement la privatisation de la FDJ. Et de trois, la justice a donné raison à un agriculteur charentais contre Monsanto pour la troisième fois. La cour d'appel de Lyon a reconnu une nouvelle fois la responsabilité de la multinationale dans l'intoxication de Paul François, contaminé par un puissant herbicide. Pour l'agriculteur, cette victoire est un message au gouvernement actuel sur l'utilisation des pesticides.
C'est un message à Agnès Buzyn, au ministre de l'Agriculture, au président de la République, qui avait dit qu'il prendrait ses responsabilités pour une autre agriculture, pour retirer le glyphosate. Il a les pouvoirs aujourd'hui. Je pèse mes mots. Il a les pouvoirs de trancher. C'est lui qui avait dit qu'il voterait une loi, qu'il ferait voter une loi pour retirer le glyphosate. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, on sait aussi pour qui il travaille, pour qui il roule. Il roule pour Bayer. Je pense que ce soir, il pourrait avoir honte. Parce que derrière ça, c'est des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Et donc les politiques et le gouvernement actuel pourraient prendre ces dispositions. Agnès Buzyn, qui a tout fait pour empêcher la mise en place d'un fonds d'indemnisation que nous défendons depuis 3 ans, honte à elle aussi. Parce que ces victimes demandent juste une réparation.
Un propos recueilli pour Europe 1 par Laurent Pellet.
Donald Trump a annoncé hier soir qu'il se rendrait en Normandie début juin.
Oui, le président américain va participer aux célébrations du 75e anniversaire du débarquement. À 2 mois de l'événement, les hôtels et locations du secteur affichent déjà presque tous complets. Les disponibilités sont à plus de 60 km du site et les prix s'emballent, comme a pu le constater notre correspondant François Coulon.
Comme un raz-de-marée, tout le secteur des plages du débarquement affiche complet depuis de longs mois. Maïwenn Tanon, comité du tourisme du Calvados.
Entre le 5 et le 7 juin, on est à 95% de réservation. Beaucoup d'Américains, des Britanniques, les Français également. Donc il faut essayer d'aller plutôt dans le sud du territoire où il reste encore quelques hébergements disponibles. À 60-80 km de Caen.
Il faudra parfois descendre jusque dans l'Orne pour trouver un hébergement de secours. La pénurie génère des tarifs souvent explosifs. Charlotte en a fait les frais.
L'hôtel, ses prix habituels qui étaient 150 euros étaient passés à 500. Il y avait une maison pour 5 personnes à 1000 euros. Moi, je trouve ça scandaleux de demander à quelqu'un de dépenser quasiment un SMIC pour une nuit. Je trouve ça indigne de spéculer sur un événement aussi important pour les pays étrangers. Ça veut dire qu'on exclut des tas de personnes qui voudraient s'intégrer aux commémorations. Elles ne pourront pas parce qu'elles n'auront pas les moyens. C'est extrêmement décevant, sachant qu'on a aussi des enfants, des petits-enfants, de vétérans pour qui c'est un moment essentiel et qui ne peuvent pas se joindre à nous. C'est vraiment dommage.
Dans certaines communes du Calvados, les familles de vétérans seront logées gracieusement chez l'habitant. Ouistreham, François Coulon, Europe.
Et le début des vacances de la zone A, ce soir, Nikos, Académie de Besançon, oui. Dijon, Grenoble, encore Bordeaux.
Non, vous serez là lundi.
Oui, je serai là lundi.
Pas de vacances encore.
Pas encore.
Merci beaucoup. C'était Céline Kallmann. Applaudissements, s'il vous plaît.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, mon cher Jean-Michel Apathy, on va parler du vote blanc.
Oui, est-ce qu'il faut le comptabiliser ou pas? C'est une demande majoritaire et du grand débat. Emmanuel Macron va arbitrer ça en début de semaine et c'est une bêtise énorme
de
comptabiliser le vote blanc.
Vous nous direz pourquoi. Axel de Taré, plus de riches, plus de pauvres et les classes moyennes qui disparaissent.
Voilà, c'est l'OCDE qui s'en inquiète. C'est un phénomène mondial et qui menace l'avenir de nos démocraties, dit l'OCDE.
Vous nous direz pourquoi dans quelques instants. Apathy Tarlet dans un instant sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Et
merci de votre confiance.
36.
Absolument.
Il est 7h39, Nikos Aliagas, de l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Faut-il comptabiliser le vote blanc? Oui, disent les participants du grand débat. Emmanuel Macron va devoir trancher, Jean-Michel Apathy.
Oui, alors est-ce qu'il faut le comptabiliser? Ben non, parce que c'est une bêtise énorme.
Pourquoi?
Je vais essayer de vous expliquer ça. D'abord, faisons un peu de pédagogie.
Yes.
Qu'est-ce que c'est un bulletin nul? Qu'est-ce que c'est un bulletin blanc? Quand vous prenez une enveloppe, vous mettez un bulletin d'un candidat dedans, vous le barrez. Le nom du candidat, ça c'est nul.
Nul.
C'est un geste agressif,
ça
c'est nul.
Ça ne compte pas.
Si vous mettez l'enveloppe sans bulletin dedans, c'est blanc. C'est-à-dire que vous êtes réputé avoir fait un choix, il y avait des candidats, vous n'en vouliez aucun, donc vous avez voté blanc. Et parce que c'est réputé être un choix, des gens disent depuis des années, des hommes politiques, des citoyens réunis en association, etc., disent depuis des années, puisque c'est un choix, il faut le comptabiliser. Qu'est-ce que c'est comptabiliser le vote blanc? Aujourd'hui, on présente le résultat d'une élection en suffrage exprimé. X est élu avec 51%, Y est battu avec 49%. Si vous intégrez le vote blanc, ça veut dire que X est élu avec 48%, Y est battu avec 47%, et donc il y a 5% de vote blanc. C'est ça, comptabiliser le vote blanc. 80% de Français favorables dans les sondages, grosse majorité dans le grand débat, et donc du coup, des amis d'Emmanuel Macron lui disent, c'est populaire, ça coûte pas cher, donc vas-y, le lundi annonce qu'on va comptabiliser le vote blanc. Et c'est une bêtise.
À quoi ça sert de
comptabiliser ? À rien. C'est contraire à l'intérêt général. Je vais vous donner un exemple. Second tour de l'élection présidentielle de 2012. Sur la base des suffrages exprimés, François Hollande est élu avec 51,64% des suffrages. Vous intégrez les votes blancs, 5,82%. Premier tour de l'élection présidentielle de 2012 et François Hollande n'est plus élu qu'avec 48,62% des sondages. Si un président de la République, un maire, entre dans le mandat avec moins de 50% des voix, il voit son autorité réduite et sa capacité d'action limitée. Un maire est dans une ville qui veut présenter un grand projet d'urbanisme, il veut façonner sa ville pour les 20 années, il a 48% des suffrages, on lui dit « Oh, mais t'as même pas la majorité, comment est-ce que tu vas faire tout ça ?» Ça pénalise l'intérêt général. Comptabiliser le vote blanc, pour ça, c'est une énorme bêtise.
Mais ça veut dire quelque chose aussi,
le vote blanc. Mais le vote blanc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est justement où je voulais en venir, un citoyen, il y a 10 candidats, il ne veut pas les choisir. Il a le droit, mais c'est irresponsable. Parce qu'il faut bien confier le pouvoir à quelqu'un. On ne demande pas à un citoyen d'aimer d'amour le candidat pour lequel il va voter. On lui demande de choisir quelqu'un pour lui confier les affaires générales. Alors, quelquefois, il faut choisir le moins mauvais ou le moins pire. C'est la vie. La vie, c'est pas parfait. Alors, on peut ne pas choisir, vote blanc, mais qu'en plus, on ne demande pas à être comptabilisé. Ça s'appelle le beurre, l'argent du beurre, et on coule la démocratie avec ça. Donc, il faut espérer qu'Emmanuel Macron, dans un sursaut de lucidité, refusera de faire la seule réforme qui ne lui coûtera rien, parce que ce serait la réforme la plus bête du monde. Voilà, M. Macron, ce qu'on voulait vous dire ce matin sur Europe 1.
Jean-Michel Apathy sur notre antenne.
Et tout de suite, Nico, la Caisse d'épargne vous présente le Zoom Echo. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Axel de Tarlet, plus de riches, plus de pauvres, et l'OCDE tire la sonnette d'alarme parce que les classes moyennes s'appauvrissent et elles pourraient disparaître.
Oui, alors c'est un phénomène qui touche tous les pays riches. Les classes moyennes sont écrasées, c'est d'ailleurs le titre de ce rapport. Écrasées parce que d'une part, beaucoup d'emplois intermédiaires sont remplacés par des robots, des machines. Et puis d'autre part, le coût de la vie a nettement augmenté ces dernières années. Alors on pense bien sûr au logement. Et puis alors ailleurs, pas en France. En France, on est épargné, mais ailleurs, il y a en plus du logement, le coût de la santé et de l'éducation qui ont flambé. Alors en France, on a de la chance, l'école et l'hôpital restent gratuits. Mmh. En tous les cas, résultat des courses, les classes moyennes sont laminées. La moitié des salariés interrogés dans les 36 pays dits riches sur la planète de l'OCDE, eh bien la moitié disent avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Et c'est très inquiétant, nous dit l'OCDE, car ces classes moyennes constituent, je cite, « le pilier fondamental de nos sociétés et de nos démocraties ». Et ce ne sont pas des mots en l'air. L'OCDE écrit que quand une démocratie fonctionne mal, on a plus de criminalité, plus de corruption, plus d'instabilité politique. Donc vous voyez, l'enjeu n'est pas maigre, c'est l'avenir de nos sociétés.
Les classes moyennes ont été touchées partout par l'austérité en Europe et en France, on le vit aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner un souffle aux classes moyennes ? L'OCDE donne quelques pistes,
oui.
Axel de Tarlet ?
Alors heureusement, c'est ça qui est intéressant, l'OCDE donne deux pistes. D'abord, un, mettre le paquet sur la formation. Et puis deux, alors c'est ça qui est intéressant, sur le plan fiscal, l'OCDE recommande de moins taxer le travail, en fait d'avoir une fiscalité plus progressive qui taxe davantage les hauts revenus, mais aussi de davantage taxer le capital. Eh bien, bingo, ce sont exactement les propositions qui sont ressorties du grand débat. Vous savez, la justice sociale et le rétablissement de l'ISF. De toute façon, cette étude de l'OCDE, c'est l'histoire des gilets jaunes, à la fois dans le constat, les classes moyennes sont écrasées, mais aussi, on le voit, dans les propositions du grand débat qui finalement rejoignent celles de l'OCDE.
L'OCDE qui rejoint les gilets jaunes, c'est ça que vous nous dites ce matin ?
Tout arrive, parce que l'OCDE s'était jugé ultra-libéral.
Axel de Tarlet pour le Zoom Echo.
C'était le Zoom Echo avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant sur notre antenne, le regard étonnant et touchant des enfants sur le sens de la vie. Qui parle de la mort, de l'amour, du bonheur. Vous pensez que les enfants ne sont pas concernés par ces questions existentielles ? Eh bien, vous allez être surpris. Ils s'expriment sans tabou dans un film documentaire qui sort mercredi. Dans un instant, je reçois le philosophe Frédéric Lenoir à l'initiative de ce projet. Tout de suite.
Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Le chantier de l'EPR de Flamanville pourrait prendre encore du retard. L'agence de sûreté du nucléaire demande à EDF de mener de nouveaux travaux à cause d'un sérieux problème sur plusieurs soudures. Pierre Palmade est ressorti libre hier après une journée devant la police judiciaire. L'humoriste de 51 ans était accusé de viol par un jeune homme de 20 ans qui a fini par revenir sur ses accusations. Donald Trump a annoncé hier soir qu'il se rendra en Normandie début juin pour les célébrations du 75e anniversaire du débarquement, du 75e anniversaire du débarquement. Et puis une nouvelle mobilisation des jeunes pour le climat à Paris, un rassemblement qui est organisé devant l'Assemblée nationale à partir de 14h. Un autre rassemblement est prévu à la même heure à Lyon, place de la Comédie.
Europe 1.
Nikos, vous recevez ce matin le philosophe Frédéric Lenoir. Pendant un an, il a initié des enfants de 7 à 10 ans à la philosophie. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que la mort ou l'amour? Il a animé des ateliers dans deux classes primaires de la région parisienne. De ces rencontres sort un film documentaire le 17 avril au cinéma, Le Cercle des petits philosophes, réalisé par Cécile Dangean.
Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Pourquoi avoir choisi de tourner avec des enfants si jeunes? On pourrait se dire a priori qu'un enfant ne sait rien de la philosophie.
Justement, c'est ce que j'ai découvert. J'ai fait pendant une année entière des ateliers de philo. Alors certes, les enfants ne connaissent pas Kant, Heidegger, ils n'ont pas lu les philosophes, ils ne peuvent pas les lire, mais ils peuvent philosopher. Parce que, comme le dit Montaigne, la philosophie, on devrait la commencer dès l'enfance, parce que les enfants s'interrogent, se posent des questions essentielles. Pourquoi on est sur Terre? C'est quoi être heureux? Et donc, ils se posent tous des grandes questions philosophiques. Alors, ce qu'on fait avec des enfants, c'est des ateliers de philo, où on leur dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? On ne leur enseigne pas, on ne leur transmet pas un savoir, on écoute le savoir qu'ils ont en eux. Mmh. Parce que les enfants sont des petits philosophes.
Des petits philosophes malgré eux ou sans le savoir, posent des questions, vous dites, essentielles, mais aussi existentielles. Comment parle-t-on de mort et de vie avec un gamin de 7 ans?
Mais en fait, c'est eux qui en parlent. Et moi, chaque fois que j'arrive dans une classe, je dis de quoi vous voulez parler sur les questions essentielles. Et presque toujours, c'est la mort qui arrive. C'est un peu un sujet tabou pour les adultes, ça l'est pas du tout pour les enfants, et ils sont très à l'aise pour en parler. Et d'ailleurs, j'ai fait des ateliers dans lesquels je pose la question « Mieux vaut-il être mortel ou immortel ?» Et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui disent « Bon, certes, être immortel, c'est sympa, mais être mortel, c'est quand même, c'est bien aussi. Pourquoi ?» Parce qu'on serait beaucoup trop nombreux sur Terre si on était immortel. Et puis les méchants, ils vivraient encore. Et puis finalement, on ne penserait pas à vivre parce qu'on se dirait on fera ça plus tard. Alors que là, la vie est courte, il faut en profiter.
Mais Frédéric
Lenoir,
ils ont
plein de bonnes raisons finalement.
Est-ce que c'est symptomatique de notre époque que des enfants aujourd'hui se posent des questions existentielles et qui parlent de la finitude de l'être humain? Ou est-ce qu'on devait se poser les mêmes questions il y a quelques dizaines d'années?
J'imagine que c'est des questions que l'être humain s'est toujours posé, c'est peut-être même le propre de l'être humain. C'est peut-être la différence fondamentale avec les autres animaux. Mmh. Nos animaux, on le découvre de plus en plus aujourd'hui, ont beaucoup d'intelligence, beaucoup plus de conscience qu'on imaginait, mais sans doute que l'être humain est le seul à s'interroger sur le sens de son existence et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? C'est la grande question.
Et au final, les enfants nous en apprennent tout autant que Kant, Spinoza ou Platon.
Alors c'est ça qui est extrêmement troublant, c'est que plusieurs fois, les enfants, en discutant, vont vous dire un raisonnement philosophique absolument profond. Ben ça, par exemple, on le voit dans le film, il y en a un qui dit ben, finalement, moi je respecte les autres parce que je sens qu'en moi, je suis obligé de le faire. Il y a quelque chose en moi qui me dit tu dois respecter les autres et tu peux pas faire ce que tu veux avec les autres. Et je lui dis, ben, tu vois, il y a un philosophe qui s'appelle Kant qui a dit la même chose.
Ouais.
Et donc, je viens parler des philosophes uniquement lorsqu'ils ont déjà dit quelque chose.
À titre
chose.
Presque accessoire, à la fin du propos.
Voilà, en disant, tiens, mais d'ailleurs, une des histoires les plus fortes, c'est un petit garçon avec qui on a posé la question, c'est quoi réussir sa vie? Et les enfants disent, c'est être heureux. Si on est heureux, on a réussi sa vie. Et puis il y en a qui dit, non, je suis pas d'accord, parce que les gens qui ont tué, les terroristes qui ont tué des gens, ils étaient heureux de mourir. Ça leur a fait du bien de tuer des gens, et donc je peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie.
Alors,
je
complexe. Dis,
voilà, sujet très complexe. Alors je dis, pourquoi ils ont pas réussi leur vie? Parce qu'il dit, peut-être que réussir sa vie, c'est être heureux, mais en n'ayant pas fait de mal aux autres, en ayant respecté les autres. Et donc il dit, réussir sa vie, c'est le bonheur plus le partage, la justice, etc. Et je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose que toi il y a 2500 ans. Et il me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la raison est universelle. Mmh. On a tous cette intelligence, cette capacité de raisonner, de réfléchir, qui nous amène aux mêmes conclusions à 2000 ans d'écart.
Frédéric Lenoir, il n'y avait pas de sujet tabou. Comment avez-vous instauré la liste des thèmes abordés?
Alors, je demande aux enfants de quoi ils veulent parler. Et donc, d'abord, je leur dis, c'est quoi la philosophie? Au début, ils ne savent pas trop. Puis, il y en a toujours un ou deux dans les classes qui dit, bah, c'est parler des grandes questions de la vie. Alors, c'est quoi les grandes questions de la vie? Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a une enfant qui dit tout de suite, oh, j'aimerais qu'on parle du maquillage. Vous voyez, des grandes questions de la vie. Pour une petite fille de 7 ans, ça peut être ça. Et puis d'autres, très vite, vont dire, bah, pourquoi on vit? C'est quoi la mort? Est-ce qu'on est un animal comme les autres?
Enfin, et l'amour? Ils sont gênés sur l'amour.
Ah, ils sont très, très intimidés. Alors, effectivement, ils parlent de l'amour, mais ils en rient. Vous savez, c'est cette espèce de presque de honte de parler de l'amour, ils rougissent, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé sur l'amour, c'est le côté hyper lucide. C'est-à-dire qu'ils vous disent, ils sont pas dans le rêve. Hein. Et on fait un atelier sur l'amour avec des enfants de 7-8 ans et ils vous disent, mais l'amour, c'est difficile, on souffre, on n'a pas vraiment envie d'être amoureux, oulala, parce qu'ils voient des adultes autour d'eux qui en bavent. Et on se dit, ben, effectivement, c'est des enfants, de manière générale, hyper lucides, très conscients du tragique de l'existence, des difficultés, et en même temps, qui ont envie de changer le monde. Et il y a vraiment un message d'espoir dans ce film, c'est qu'ils disent, ben voilà, voilà ce qu'on pourrait faire pour améliorer le monde, et c'est très, très, très touchant.
On le sent, ce message d'espoir dans le film, qui nous propose un autre regard. Il suffit de regarder nos propres enfants pour peut-être avoir des réponses à nos questions. Ce n'est pas dommage d'attendre d'être en terminale pour parler de philosophie ?
Mais bien sûr. Alors évidemment, il faut attendre d'avoir 16-17 ans pour lire les grands philosophes, mais on peut philosopher beaucoup plus tôt. Et donc c'est ça les ateliers philo, c'est qu'on peut discuter avec des enfants des choses les plus profondes, leur apprendre à raisonner, leur apprendre à argumenter. Et ça fait sacrément du bien de voir ces enfants qui au début sont un peu dans « t'es bête », etc. Puis ouais. À la fin, « ouais, je ne suis pas d'accord avec toi parce que… »
Et là, on crée la dialectique philosophique en fait, avec des enfants.
C'est ça, on fait de la maïeutique et de la dialectique.
Vous avez créé, Frédéric Lenoir, cette fondation Sève qui propose des ateliers de philosophie à travers la France.
Exactement. L'idée, c'est que je ne peux pas me démultiplier. Et donc, c'est de former des personnes, des enseignants ou des non-enseignants qui veulent aller le faire dans des écoles pour leur apprendre la méthode qui permet de faire des ateliers de philosophie avec les enfants. Alors Sève, c'est une association à but non lucratif. On peut aller sur le site Sève, c'est comme la sève de l'arbre,
hein, .org
pour voir comment se former.
Le cercle des petits philosophes réalisé par Cécile Dorjan, ça nous fait réfléchir d'entendre nos enfants philosopher grâce à vous, Frédéric Lenoir. Votre film documentaire sort le 17 avril.
Merci.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, coup de fouet pour l'emploi. Les projets d'embauche sont au plus haut depuis 10 ans et pourtant les entreprises ont du mal à recruter. Explication dès le début du journal de 8h. Et puis dans une minute, vous l'attendez, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, des hommes et une souris. Une souris, une vraie souris.
On a hâte de savoir de quoi il va nous parler.
Je ne comprends pas, mais j'ai hâte. À tout de suite.
On a beaucoup de réactions sur Twitter, Nikos avec le hashtag Europe 1, suite au reportage sur le running de tout à l'heure. Yanis, lui, souhaite bon courage aux marathoniens. C'est dimanche, le marathon de Paris. Et puis Anna, elle nous dit, non sans humour, qu'elle a tenté de courir. Ça a duré une heure. Elle s'est fait une entorse. Elle a perdu 645 euros en préparation. L'envie de courir, ses rêves de gloire, sa dignité. mais vous pouvez continuer à tenter de courir, Anna.
Persévérer.
Et puis en nous écoutant, c'est motivant. Allez,
persévérer.
À tout de suite avec Nikos. C'est la gueule sur Europe 1, il est 7h54. 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Vous savez quoi ? C'est la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, on va en Angleterre, près de Bristol, pour le mystère du cabanon.
Et je vous présente Stéphane, retraité bricoleur. Et comme souvent avec les retraités bricoleurs, Stéphane a son cabanon au fond du jardin, avec son établi impeccablement rangé. Sauf que, non d'ailleurs, en général, l'établi n'est pas impeccablement rangé. Et c'est ce qui inquiète notre bricoleur. Lui qui a l'habitude de toujours laisser traîner un clou, un boulon, bah, il constate que chaque matin... tout est remis à sa place pendant la nuit, comme par magie, dans une petite boîte en plastique. Et Stéphane de se demander si à 72 ans, il ne serait pas en train de perdre la boule. Ou alors, il y a un fantôme, un esprit farceur, en tout cas quelque chose caché dans ce satané cabanon. Stéphane décide d'en parler à son voisin Rodney, lui aussi retraité et lui aussi intrigué. Et Rodney a peut-être la solution. Il dégaine sa petite caméra à vision nocturne. Il suffit de la poser là, sur l'établi, on fait tourner et on verra bien ce qui se passe. Le résultat, les amis, est juste dingo. Parce que le lendemain matin, quand les deux compères regardent les images, bah, ils constatent que c'est une souris qui range l'établi. Oui, une souris qui débarque en général vers 2h, 2h30 du matin. Est-ce que vous entendez derrière moi ? Ça, c'est le son de la vidéo. C'est le petit manège de la petite souris qui prend les clous, les vis, les chaînes avec ses petites pattes musclées. Une souris maniaque, obsessionnelle, pour ainsi dire, qui escalade et fait des allers-retours non-stop dans la boîte en plastique. Ne me demandez pas pourquoi. Stéphane, en tout cas, lui, il lui a trouvé un petit nom, Brexit. Oui, parce que la souris fait des stocks dans sa petite boîte, un peu comme les Anglais qui ont peur de la pénurie. Alors, je vous vois venir, les enfants. Oui, ce serait pas mal. Une souris maniaque pour ranger la chambre. J'ai envie de dire bien tenté, mais vous savez quoi ? La vie, c'est pas un dessin animé, sauf peut-être, dans le cabanon de Stéphane.
Tom et Jerry, la musique.
Tom et Jerry.
C'est la souris fait du logis. Merci, cher Jean-Philippe Ballas, c'était la petite histoire du jour.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Et la météo avec vous, Céline Dacosta, ce matin.
Oui, avec une belle journée, mais uniquement...
Belle journée, sauf dans le sud-est.
Exactement.
Hein, je crois.
Là où ça va rester perturbé toute la journée, c'est dans le sud-est, puisqu'on a des averses assez faibles ce matin, mais qui vont tourner à l'orage cet après-midi avec de la grêle. On attend de bons cumuls de pluie sur ce secteur. De la neige également sur les Alpes, 1600 mètres. Pour les autres, grand soleil. Petit bémol, hein, juste dans le sud-ouest ce matin, où on a un petit peu plus de nuages, quelques gouttes également, mais ça va se dégager dans la journée. Le beau temps sera de retour sur la moitié nord également avec quelques nuages uniquement. Les températures, elles sont en baisse. Ce matin, moins 2 degrés à Aurillac.
Il fait froid, bien sûr.
Moins 1 Clermont-Ferrand, 1 degré à Brest et Mulhouse, 4 seulement à Paris, 8 à Toulouse, jusqu'à 12 quand même à Perpignan. Et puis cet après-midi, la moyenne ira de 10 à 17 degrés du nord au sud, 17 à 20 près de la Méditerranée, un petit peu moins sous la pluie entre Nice et Ajaccio.
Prenez soin de vos plantes, comme dirait notre ami Laurent Cabrol, qu'on retrouvera dès lundi et on embrasse évidemment très fort.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi 12 avril. Il est 8h, bienvenue à tous. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal présenté par David Decamp. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité ce matin.
Bonne nouvelle, les patrons ont l'intention d'embaucher en 2019, mais trouveront-ils les bonnes personnes ? Recruter, c'est parfois la croix et la bannière. On vous parle d'emploi dès le début de ce journal. Le cavalier seul, Emmanuel Macron, s'oppose aux négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, mais est-ce le signe d'un isolement du président français ? Elles auront bien lieu. Le pire naufrage depuis le Titanic, l'Estonia, engloutie en mer Baltique. Plus de 850 personnes étaient mortes, c'était en 1994. 25 ans plus tard, quelqu'un va peut-être payer. Un procès commence aujourd'hui.
8h12, on va parler de l'arrestation de Julian Assange pour Vincent Hervouet. C'est toute la puissance américaine. Et puis à 8h15, il vient de quitter Matignon pour se porter candidat aux européennes. C'est la première interview de l'ancien conseiller du Premier ministre. Gilles Boyer répond aux questions d'Audrey Crespo-Mara.
Europe 1.
Voilà une prévision qui donne envie d'espérer. L'enquête annuelle de Pôle emploi, les intentions d'embauche pour 2019 en forte hausse, presque plus 15%. Cela représente près de 350 000 projets de recrutement supplémentaires. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour.
On a spontanément envie de se réjouir, mais et c'est toujours le même problème, j'ai envie de dire Axel. Les patrons anticipent de fortes difficultés pour trouver les bonnes personnes.
Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître très paradoxal dans un pays qui compte plus de 5 millions de chômeurs, car les emplois sont là, mais pas les candidats. Effectivement, vous avez 50% des patrons qui disent éprouver de fortes difficultés à embaucher. Et le phénomène s'aggrave. L'an dernier, ça n'était que 44%. Alors pourquoi ? Eh bien, l'explication est double. D'une part, les patrons recherchent des profils bien précis, des compétences spécifiques qu'ils ne trouvent pas. Alors ça, c'est tout le problème donc de la formation. Et puis d'autre part, côté employeur, on a aussi le manque de motivation des candidats pour des métiers jugés difficiles, jugés pénibles, avec des horaires décalés. Et ça, c'est toute la question du travail qui ne paye pas ou pas assez. Et donc malheureusement, oui, nombre de ces offres d'emploi, 2 700 000, ne trouveront pas preneur. C'est là un frein évident à l'économie française.
Axel de Tarlé pour Europe 1. Merci à vous Axel.
Voici maintenant une initiative qui fait d'une pierre deux coups.
Et oui, cela se passe à Marseille. Un bâtiment public a été retapé pour pouvoir accueillir à la fois des sans-abri, mais aussi une quarantaine de start-up. Un seul endroit pour créer de l'activité économique et pour sortir les gens de la rue. Cela s'appelle Coco Velten. Reportage Nathalie Chevance.
C'est un bâtiment de 4000 m², propriété de l'État, réhabilité et qui désormais ressemble à une fourmilière. À la cantine au rez-de-chaussée se croisent des entrepreneurs, des artistes, mais aussi des SDF comme Yacine. Il paie 50 centimes par jour pour une chambre qu'il loue dans les étages. Il a sa clé, sa boîte aux lettres, rien à voir avec une structure d'urgence.
En fait, c'est comme une résidence. Je suis dans une grande maison. Ma chambre, elle est géante, quoi. J'ai un frigo, j'ai un placard où je peux garder mes affaires dedans, tranquille. Soulager, c'est d'avoir une expérience de vie, une famille, ouais. Je peux m'avancer dans ma vie, quoi.
Et l'émulation, il la trouve dans cet univers de coworking, d'échange avec le monde du travail. Une quarantaine de structures louent des bureaux à petit prix, 10 euros le mètre carré. Aurore travaille sur le changement climatique, séduite par le lieu, l'expérimentation.
Une niche foisonnante de structures de tout horizon, de pouvoir créer des liens, le tout sous le même toit et justement d'ouvrir notre monde à un public qu'on ne côtoie pas nécessairement, quoi.
Le monde de la rue ?
Oui, tout à fait, oui. C'est un lieu de vie plus qu'un lieu de travail.
Un bail pour 3 ans de cohabitation entre entreprises et SDF dans ce bâtiment ouvert au public qui sera ensuite revendu pour d'autres projets. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et le gouvernement souhaite attirer la lumière sur cette initiative. Le Premier ministre Édouard Philippe se rendra sur place aujourd'hui.
Le cavalier seul d'Emmanuel Macron.
Oui, il y a d'abord eu cette position minoritaire sur le délai du Brexit. Et maintenant, le chef de l'État prend le contre-pied de la Commission européenne. Il dit non à l'ouverture de négociations commerciales avec les États-Unis. Pour lui, un pays qui a quitté l'accord de Paris sur le climat ne peut pas être considéré comme un partenaire de confiance. Avec nous, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, Isabelle Horry. Tout cela, Isabelle, risque de donner le sentiment d'un isolement d'Emmanuel Macron sur la scène européenne ?
Et oui, car la France seule n'a pas le pouvoir de bloquer les négociations. C'est un vote à la majorité des 27. Emmanuel Macron a beau plaider que l'Europe doit être exemplaire pour le climat et qu'elle doit faire entendre sa voix, ses partenaires, eux, ont décidé de faire la sourde oreille. Alors ça fait des mois que ce dossier est dans les tuyaux. C'était une des conditions après l'armistice commercial conclu l'été dernier entre Donald Trump et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Beaucoup de pays européens ont peur de représailles américaines. Si les choses n'avancent pas, on sait, Berlin s'inquiète pour ses voitures. Mais il y a aussi d'autres menaces venues de Washington. Donald Trump a lâché une salve de tweets qui vise Airbus, par exemple. Ceux qui veulent ces discussions pointent que la France a quand même obtenu des garanties sur l'environnement et que l'agriculture ne fera pas partie des négociations. Certains diplomates européens accusent Paris de faire de la politique intérieure à quelques semaines des élections européennes, argument balayé par l'Élysée. Parfois, en Europe, il faut assumer le rôle de vigie, dit-on, dans l'entourage du président.
Isabelle Horry, la correspondante à Bruxelles d'Europe 1. Merci Isabelle.
Plus de 850 personnes avaient disparu dans les eaux noires et glaciales de la Baltique.
Oui, vous parlez du naufrage de l'Estonia il y a 25 ans. Depuis, les familles essaient d'obtenir réparation et ce jour est peut-être venu. Un millier d'ayants droit et de survivants réclament 40 millions d'euros d'indemnité au constructeur allemand du ferry, mais aussi à une entreprise française, Bureau Veritas, qui avait certifié ce navire. C'est le tribunal de Nanterre qui en jugera à partir d'aujourd'hui. Jean-Gabriel Bourgeois.
L'Estonia, c'est la fierté de la toute jeune République balte. Comme tous les jours, le ferry quitte le port de Tallinn ce 27 septembre 1994. Mais en pleine nuit, à 1h22, l'équipage lance son premier SOS.
This is Estonia. Mayday.
Le bateau tangue et se retourne très rapidement. Plus de 700 personnes sont prises au piège. Les autres se jettent dans l'eau glaciale. En moins d'une demi-heure, le mastodonte de 150 mètres de long disparaît des radars. L'Estonia a sombré dans la Baltique. Des tonnes d'eau se sont engouffrées par l'avant, par ce qu'on appelle l'étrave rabattable, une porte qui s'avérera défectueuse. Pour maître Maxime Cordier, qui défend les victimes, le bureau Veritas, chargé de contrôler les équipements, était forcément au courant.
Ils ont même fait un contrôle en cale sèche 3 mois avant le drame, on aurait dû s'apercevoir qu'il y avait un problème. Après le naufrage, l'intégralité de la flotte des étraves rabattables ont été soudées. Donc c'est bien que le bureau Veritas a reconnu qu'il y avait un problème d'étanchéité des étraves rabattables.
Aujourd'hui, le bateau repose toujours à 85 mètres de profondeur dans les eaux de la Baltique, une zone sanctuarisée dont l'exploration a été interdite par les autorités scandinaves.
Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h avec David Doucan, la fin d'un dictateur au Soudan ne veut pas dire l'arrivée de la démocratie pour autant. C'est l'armée qui a pris le pouvoir. On vous dit tout dans quelques instants. À tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan et la mobilisation du peuple soudanais qui a entraîné la chute d'Omar al-Bashir.
Oui, le dictateur a été renversé, mais par l'armée. Les généraux s'installent au pouvoir pour une période de transition de 2 ans, disent-ils. Le peuple n'en veut pas et poursuit sa mobilisation. Jean-Sébastien Soldaï.
Des chants qui résonnent comme un pied de nez devant le quartier général de l'armée. Paix, justice, liberté, scandent ces Soudanais qui ont choisi de braver le couvre-feu imposé par les militaires dès leur prise du pouvoir. Nous n'avons pas peur, confie mardi un jeune manifestant. Certains soldats sont parmi nous et ont promis de nous défendre.
Nous sommes nés sous le règne de Bachir et nous n'avons connu que lui à la tête de ce pays. Donc tout le monde est heureux de s'être débarrassé de lui. Mais en même temps, nous sommes en colère. Car l'armée nous fait un sale coup. Ceux qui ont pris les commandes sont les mêmes bandits issus de ce même régime sanguinaire et ils vont essayer d'empêcher cette révolution. Mais les manifestants restent malgré le couvre-feu. Ils sont même plus nombreux, car on ne veut pas de 2 ans sous l'emprise de l'armée.
La crainte d'un provisoire qui dure, celle de voir un général s'installer pour longtemps à la tête du pays comme en Égypte, méfiance partagée par l'ONG Human Rights Watch qui veut une transition rapide et un déferlement de l'ancien président devant la Cour pénale internationale. Problème, personne ne sait exactement où se trouve Omar el-Béchir.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Et maintenant, Nikos,
exceptionnelle.
Une séquence exceptionnelle parce que vous le savez, ce dimanche, c'est le Paris-Roubaix, la plus belle des courses cyclistes avec la fameuse trouée d'Arenberg. Il faut se rendre compte que ce que c'est de faire du vélo à 50 km/h sur des pavés parfois glissants. Et cela, nous voulions sur Europe 1 que vous vous en rendiez compte. Alors l'ami Jean-Jacques Herry n'a pas hésité une seconde. Il a pris tous les risques et il a testé pour vous l'enfer du Nord.
À gauche, à droite de la forêt, devant moi, 2 km de pavés luisants. Visant et menaçant, et puis à moi, sur un vélo. Allez, j'y vais. La première sensation, c'est que ça fait mal au bras, ça secoue, aussi en fait toutes les parties du corps, depuis le guidon jusqu'au haut de la tête. Ce qu'il faut, c'est prendre un peu de vitesse pour essayer de se faire secouer le moins possible. Il faut aussi rouler au milieu, c'est là que les pavés sont peut-être le moins disjoints. Mais là encore, il faut réussir à rester au milieu. Ça secoue et ça glisse. Même si ça a été nettoyé, quand même un peu de boue.
Bon, je me suis senti plutôt à l'aise. Hein. Je vais aller débriefer ma course avec Thierry Gouvenou. C'est le directeur du Paris-Roubaix.
Il a un style plutôt aérien, non ?
Ouais, oh là là, il va falloir se détendre. Hein. Faut se relâcher, respirer un bon coup et puis on y va. Il faut surtout s'imposer, dominer le pavé.
Bref, il y a encore du boulot, quoi.
Ouais, il y a du boulot et la course va arriver vite d'ici dimanche.
Mon Paris-Roubaix, mon enfer du Nord à moi, n'aura donc duré que 2 km sur les pavés. Mais au moins, je suis pas tombé.
Il n'est pas tombé, Jean-Jacques. Il n'est pas tombé, Jean-Jacques Herry. Bravo.
Sous les pavés, le courage et l'effort.
Bravo à lui.
C'était le journal de David Decor. Merci, David.
À lundi.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervoy.
Évidemment, ça fait la une de l'actualité internationale. L'arrestation de Julian Assange, le créateur de WikiLeaks qui a dormi cette nuit en prison à Londres. Les États-Unis réclament tout simplement son extradition.
Alors Vincent. C'est la fin d'une cavale immobile puisque Julian Assange a passé 7 ans reclus à l'ambassade d'Équateur, la police à la porte, dans 10 mètres carrés, la taille d'une cellule. Les services l'avaient à l'œil, des vidéos circulent enregistrées à son insu. Un poisson rouge dans son bocal, le comble pour un pirate qui voulait imposer la transparence aux États. En 2012, Julian Assange s'est réfugié à l'ambassade comme un hôte de marque, invité du président équatorien Rafael Correa. Et puis, Lénine Moreno a été élu président et Rafael Correa s'est enfui en exil. Julian Assange est resté soudain piégé. Il est devenu Tanguy, l'hôte indésirable squatteur. Il y a 6 mois, un règlement lui a été imposé, imposant les visites et les communications, les limitant. Et peu à peu, il a été traité comme le prisonnier de la Tour de Londres. Hier, le président Moreno lui a reproché de n'avoir pas respecté le règlement. Julian Assange s'est donc vu retirer la nationalité équatorienne et privé d'asile. Il a été déchu, fichu dehors, arrêté, jugé, condamné, le tout en une demi-journée. Oui. On pense ce qu'on veut d'Assange, que c'est un salaud davantage qu'un héros, comme la plupart des hackers. Gluant, cynique, irresponsable, qu'il a violé aussi une fille en Suède, mis des vies en danger en Irak, qu'il s'est laissé manipuler par les Russes pour discréditer Hillary Clinton, et que la place d'un maître chanteur est vraiment au violon. Peut-être, mais la police dans une ambassade, c'est choquant. Le prévenu traité comme un droit commun, scandaleux. Le juge implacable parce qu'il a fui son contrôle judiciaire, alors que la plainte pour viol qui justifiait ce contrôle a été abandonnée, eh bien c'est absurde. La plainte pour corruption que dégaine illico Washington, c'est Kafka. Avec son clavier d'ordinateur, Julian Assange a tout fait pour démontrer que les États sont des monstres froids. Sa journée hier permet de le vérifier.
Et la semaine dernière, l'Équateur démentait son expulsion prochaine.
Alors le président Lénine Moreno a expliqué qu'Assange était un caillou dans la chaussure. C'est une expression étrange de la part d'un homme qui vit en fauteuil roulant. Mais il se trompe. C'est maintenant qu'Assange va être un clou dans ses pneus. Lénine Moreno vient d'obtenir un prêt de 10 milliards du FMI. On y verra les 12 deniers de Judas. Il enrage contre WikiLeaks, qu'il accuse d'avoir un compte caché au Panama. Eh bien, il a intérêt à rouler droit. Les scandales Petrobras et Odebrecht ont envoyé en prison des centaines de politiciens latino-américains, dont Lula du Brésil. La NSA et ses 100 000 agents voient tout. C'est une arme fatale. Les États-Unis ont repris en main l'Amérique latine et ils veulent être les seuls à jouer les justiciers dans l'arrière-cour.
La plume, la voix et le regard de Vincent Hervouet sur l'actualité internationale. Et juste, je signale la une du journal Libération, hein, Soudan, printemps arabe, saison 2, avec cette femme sur le capot d'une voiture qui danse et qui pointe du doigt. Vous nous en parliez dans votre chronique mardi dernier.
Oh, une icône maintenant, elle est universelle.
Depuis votre papier. Merci, merci Vincent Hervouet.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Qui recevez-vous, cher Audrey Crespo-Mara, dans 2 minutes, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Écoutez, conseiller d'Alain Juppé pendant 15 ans, il vient de quitter son poste de conseiller du Premier ministre, Édouard Philippe, pour rejoindre la liste La République En Marche aux européennes et passer de l'ombre à la lumière. Gilles Boyer a choisi Europe 1 pour sa première interview. Il sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h18, Nico Saliagas.
L'ancien conseiller politique d'Edouard Philippe est candidat à La République En Marche aux élections européennes. Gilles Boyer est votre invité, Audrey Caspomara. Et c'est votre première interview depuis votre départ de Matignon. Bienvenue, bonjour.
Absolument, bonjour, merci.
Bonjour Gilles Boyer, merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre première interview.
Plaisir.
Le plus simple pour vous présenter, c'est de commencer par Alain Juppé. Vous avez été son plus proche conseiller pendant 15 ans, oui, à la mairie de Bordeaux, au Quai d'Orsay, mais aussi lors de la primaire de la droite en 2016. Alain Juppé à l'Élysée, ça aurait été mieux qu'Emmanuel Macron ?
Écoutez, on ne le saura jamais, ça aurait été probablement très différent, parce qu'ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas la même origine politique, ils n'avaient pas tout à fait le même projet, même s'il y a beaucoup de zones de convergence, en particulier dans la manière d'aborder les problèmes et de concevoir la vie du pays. Donc on ne le saura jamais.
Proche d'Alain Juppé, mais aussi proche d'Édouard Philippe, qui, une fois à Matignon, vous a immédiatement choisi comme conseiller politique. Alors pendant 2 ans, vous lui avez donné des conseils. Par exemple, est-ce que vous avez dit au Premier ministre « Édouard, je te conseille de baisser la vitesse à 80 sur les nationales ».
Alors, je ne revendique pas la paternité de l'idée, mais j'approuve tout à fait la mesure telle qu'elle a été prise, qui a permis, dès l'année dernière, de sauver énormément de vies sur nos routes. Et c'est, je crois, à l'honneur de la politique de prendre ce genre de décisions qui sont évidemment impopulaires aux yeux de certains Français, mais qui permettent de sauver des vies chaque jour qui passe.
Est-ce vous qui avez conseillé au Premier ministre de désindexer les pensions de retraite ?
Non, là aussi, je ne revendique pas la paternité de cette idée. Et de toute façon, toutes mes idées étaient à lui et lui appartenaient. Donc, ce n'est pas mon objectif, mais c'est là aussi une mesure que j'approuve.
Que vous approuvez. Édouard Philippe ne devrait pas revenir sur cette décision.
Non, il fera bien comme il voudra. Je ne suis pas son porte-parole et je ne souhaite pas l'être. Je suis avant tout son ami. Mais c'est vrai que le sentiment qu'ont pu avoir certains retraités depuis quelques années, quelques décennies, était qu'ils étaient parfois les dindons de la farce. Et c'est vrai que ceux qui n'ont plus l'espoir d'augmenter leurs revenus par ailleurs méritent la considération de la nation.
Donc, est-ce qu'on revient sur cette décision ou pas, à votre avis ?
Je ne sais pas ce qui va être décidé. Bon. Et même si je le savais, je crois que je ne vous le dirai pas.
Bon. Au début du mouvement des Gilets jaunes, est-ce vous qui avez conseillé au Premier ministre de rester droit dans ses bottes façon Juppé ?
Ah bah si vous dites qu'il est façon Juppé, c'est un compliment que vous lui faites. L'expression « droit dans ses bottes », elle est restée marquée, frappée du sceau du fer rouge. Je ne crois pas qu'il soit resté droit dans ses bottes. Il y a eu un mouvement social parfaitement inédit dans notre pays qui est arrivé à ce moment précis de l'histoire, qui aurait pu arriver avant ou après. Il se trouve qu'il arrive maintenant. Je crois que tout le monde était un petit peu déconcerté par le caractère inédit de ce mouvement. J'ai envie de dire, vous comme nous, nous n'avons pas su comment l'appréhender au début. Et aujourd'hui, je crois que le grand débat a permis de faire émerger des lignes de force, de faire un diagnostic le plus précis possible. Et je suis certain que les mesures qui vont être annoncées seront à la hauteur du défi.
Gilles Boyer, on parle du PAC de droite au gouvernement. PAC en anglais, ça veut dire meute, comme pour les loups. Philippe à Matignon, le maire d'Armanin à Bercy, le cornu au grand débat. Et vous, le gouvernement est noyauté par la droite ?
Non, je ne crois pas. Il y a des ministres qui viennent de la droite et des ministres qui viennent de la gauche. C'était le souhait du président d'incarner jusqu'au bout cette ouverture politique. La nomination d'Édouard Philippe à Matignon, c'était sa première décision. C'était une décision extrêmement forte de nommer à Matignon quelqu'un qui n'appartenait pas à sa formation politique.
Mais il y a beaucoup de ministres de droite à des postes clés et qui pèsent fort aujourd'hui et qui essaient d'avancer leur pion avant les propositions du président.
Il y a aussi des ministres de gauche au sein du gouvernement qui aussi font part au président de leurs propositions. On s'entend bien. Et visiblement, on nous le reproche. Mais c'est pas uniquement parce qu'on vient de la droite, c'est parce qu'on a des liens amicaux depuis plusieurs années. Et que chacun, dans un moment de grand débat, fasse part de ses idées au président de la République, ça ne me semble pas absurde.
Gilles Boyer, dans son programme, Alain Juppé voulait fixer l'âge de la retraite à 65 ans. Oui. À l'époque, avec Édouard Philippe, vous étiez d'accord ? Aujourd'hui, êtes-vous toujours d'accord ?
C'est un débat qui est maintenant vieux et c'est vrai que l'espérance de vie à la retraite, depuis que le système a été conçu après la guerre, a augmenté d'à peu près 20 ou 25 ans, qu'à l'époque il y avait un retraité pour 4 actifs et qu'aujourd'hui il y aura bientôt un retraité pour 1,5 actif. Donc l'idée que dans un monde qui change, notre système ne doit pas changer, ça me paraît un petit peu baroque. Ensuite, il faut trouver les modalités. Il y a un gros chantier qui a été engagé sous la houlette d'Agnès Buzyn et de Jean-Paul Delevoye pour mettre en place un système des retraites qui soit juste et équitable. Et je suis certain qu'ils trouveront les bonnes solutions en ce sens, que ça passe ou non par le système par points qui est envisagé. Et ensuite, quand au départ de l'âge légal, j'ai compris que l'idée était de ne pas y toucher, mais d'inciter les Français à partir plus tard à la retraite avec des avantages. Il ne s'agit pas de pénaliser ceux qui partent à 62 ans, il s'agit d'avantager ceux qui partiraient plus tard.
Vous avez milité 20 ans à droite.
Oui.
Pas trop de regrets d'avoir quitté les Républicains ?
Non, c'est plutôt eux qui m'ont quitté, pour vous dire la vérité, parce que les idéaux pour lesquels je me suis engagé au RPR il y a bien longtemps, pour les plus anciens, à l'UMP aux côtés d'Alain Juppé, aujourd'hui me paraissent bien loin.
Les Républicains se sont alliés aux communistes pour voter contre la privatisation d'ADP. Ça vous amuse ou ça vous consterne ?
On aura tout vu de la part des communistes, c'est pas très surprenant. Ça fait 100 ans qu'ils sont pour la mise en commun des moyens de production. Je vois pas pourquoi ça changerait. En revanche, de la part des Républicains, c'est vrai, et aussi de certains socialistes qui avaient organisé la privatisation d'aéroports en région sous le mandat de François Hollande, ça paraît en effet un petit peu plus baroque. Et Éric Woerth lui-même, qui est un membre éminent des Républicains, qui n'est pas suspect de complaisance avec le gouvernement, a dénoncé cette forme de confusion politique qui peut semer le trouble parmi les électeurs des Républicains et de la droite modérée.
Gilles Boyer, l'épouse de Gilles Legendre, le patron des députés La République En Marche, vient d'être nommée directrice de la communication de la Française des Jeux, juste avant l'adoption de la loi Pacte qui prévoit sa privatisation. L'opposition dénonce un curieux mélange des genres.
Oui, avant d'être la femme d'eux, elle s'appelle Raphaël Rabatel, elle porte un nom et elle a une expertise professionnelle reconnue. Elle a été directrice de la communication dans plusieurs grandes entreprises, dont une, Gaz de France, qui a elle-même connu une privatisation.
Ça jette pas un trouble sur la République exemplaire ?
Ce qui peut jeter le trouble, c'est la coïncidence du moment. Mais je ne vois pas en quoi on devrait empêcher cette femme compétente, qui a été recrutée à l'issue d'un processus sans doute extrêmement long et extrêmement sérieux, de faire son métier.
Gilles Boyer, avec tout ça, on n'a pas encore parlé d'Europe, alors que vous êtes candidat sur la liste La République En Marche aux Européennes. Numéro 12 sur une place éligible, donc vous serez député européen au mois de juin.
Merci de le dire, j'en suis pas sûr.
Bon, vous qui étiez un conseiller de l'ombre, vous étiez en manque de lumière ?
Non, je ne sais pas, mais il y a un moment dans la vie où on a envie de voler de ses propres ailes, et je remercie Édouard Philippe de l'avoir compris. On a envie de porter ses propres idées en étant... évidemment fidèle à l'idéal européen qu'Alain Juppé a incarné durant toute sa vie politique, et parfois ça lui a fait du tort dans un mouvement politique qui était parfois plus porté vers l'euroscepticisme. Donc je suis ravi de reprendre à mon humble niveau une partie de ce flambeau-là, de faire vivre l'idéal européen d'Alain Juppé et de continuer à accompagner Édouard en tant qu'ami, à défaut d'être son collaborateur.
Nathalie Loiseau a dit que l'objectif de sa campagne était de battre Marine Le Pen. Les européennes, ce sont donc le match retour de la présidentielle.
Je trouve que notre objectif peut être aussi de donner au président de la République les moyens de son ambition européenne qui est grande. Son ambition européenne, c'est une France forte dans une Europe forte. Et nous devons pour cela être les plus nombreux possibles à se faire les avocats de sa politique à Strasbourg et à Bruxelles. Battre le Front National, c'est évidemment un objectif. Arriver en tête, c'est un objectif. Ça donnera à la France et à l'Europe le signal que la dynamique enclenchée par le président de la République est intacte. Je voudrais souligner une décision qu'a prise hier la France, qui est de refuser que l'Union européenne engage des négociations avec les États-Unis parce qu'ils n'ont pas signé les accords de Paris. C'est un signal très important où la France démontre qu'il faut tenir bon sur des principes, que l'écologie doit parfois primer sur l'économie. C'est un arbitrage qu'on a rarement rendu et c'est une décision forte de la France qui a été prise hier par le président, et je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a tout lieu d'en être fier.
Merci Gilles Boyer.
Avec plaisir.
C'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara. Et puis à noter ce dimanche 10h, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux élections européennes, sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo à 8h30, l'essentiel de l'info.
Dans la prochaine demi-heure, Nicolas.
Il a tout lu, il a tout vu, il a tout décrypté et tout est prêt à être partagé. C'est David Abika pour la revue de presse. Mais il y aura aussi, à 8h30, un point sur l'actualité. Complet, puissant.
Oui. Avec qui ?
Avec moi.
Avec vous. Et juste après, Nicolas Cantou. J'attendais Nicolas Cantou.
Vous attendez quelque chose. Mais moi, j'attends que vous me disiez si je dois m'habiller beaucoup
chaudement.
Aujourd'hui, oui, chaudement, oui, ou si je peux sortir avec un t-shirt.
Oh non, vous l'avez bien senti, il fait froid ce matin et ça va continuer tout ce week-end, on va en parler dans un instant. Aujourd'hui, on a compris que c'était une belle journée qui nous attendait, sauf entre les Alpes et la Corse, où là, le ciel va être agité toute la journée avec des orages et de la grêle cet après-midi. Du coup, un petit mot du week-end, si vous le voulez bien, Nico, ce qui s'annonce.
Très froid, nous disait
Cabrol.
Exactement, c'est vrai, bien frais. Surtout le matin, on aura encore des gelées, particulièrement sur la moitié nord, un air froid qui nous arrive de Finlande et qu'on va supporter au moins jusqu'à lundi. Ça va recommencer à monter à partir de mardi, mais avec le retour de la pluie. Côté ciel, ce sera toujours perturbé samedi sur le sud-est de la région PACA et la Corse avec encore des orages. Un petit peu plus neigeux sur le nord-est avec des averses, parfois même de la pluie et de la neige mêlée en pleine. Soleil encore pour les autres et puis dimanche, ce sera plus nuageux pour l'est et l'ouest. Entre les deux, encore de larges éclaircies.
Merci, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nico Saliagas.
Deux associations s'opposent à la hausse de près de 6% de l'électricité prévue cet été. La CLCV et l'UFC Que Choisir adressent une lettre ouverte au président de la République pour lui demander d'empêcher cette augmentation. Elle reviendrait à tourner le dos aux attentes des Français en termes de pouvoir d'achat, nous dit la lettre. Les intentions d'embauche au plus haut depuis 10 ans pour les entreprises françaises, soit 350 000 intentions de recrutement supplémentaires par rapport à l'année dernière. 25 ans après le naufrage de l'Estonia au large de la Finlande, un millier de rescapés et d'ayants droit demandent réparation en France, notamment à Bureau Veritas, le certificateur du navire. Le drame avait fait 952 morts. Julian Assange va s'opposer à la demande d'extradition des États-Unis. Le fondateur de Wikileaks, qui a dévoilé des milliers de documents américains classés secret défense, a passé sa première nuit en prison après son arrestation hier à Londres. Pierre Palmade, accusé de viol, a tort. L'humoriste avait été placé en garde à vue hier à Paris, mais son accusateur a reconnu avoir menti. Un mot de foot ce soir en Ligue 1. Dijon reçoit Amiens et Nantes, Lyon.
Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Et la revue de presse est avec David Abicar, comme chaque matin, Nikos.
Et à la une ce matin, mon cher David, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Des grandes voix.
Des grandes voix, comme sur Europe 1, à commencer par celle de Macron. Quand Macron va-t-il donner de la voix et une suite concrète au grand débat ? Dans l'Union, Sébastien Lacroix s'amuse ce matin, c'est le week-end. Hein.
Oui.
Préparez-vous à vivre un week-end d'intense excitation. Macron devrait dévoiler ses réformes dimanche, ou plutôt lundi. Mais avant jeudi, l'incertitude sur le moment de son intervention met le pays dans un état de tension tel qu'on nous souhaite à tous une délivrance aussi rapide que possible. Il s'amuse. Une voix qui ne plaisante pas, elle, et qu'on n'entendait plus, c'est celle de Benoît XVI, qui fait la une du Figaro. Le pape émérite, retiré depuis 2013, s'en prend à la faillite morale de l'Église dans un réquisitoire sévère qui fustige une Église en proie au scandale. Dans le magazine Society, à la veille de l'acte 22, on lira l'interview du journaliste David Dufresne, dont la voix porte depuis le début du mouvement des Gilets jaunes la dénonciation des violences policières. Il y a ce matin, Nikos, dans la presse, les grandes voix qui font le débat public, mais il y a aussi la voix des anonymes qu'Amazon écoute à la une du journal du Geek. La firme américaine paie des milliers d'employés pour écouter les clients qui utilisent son enceinte connectée. Certains appellent ça de l'espionnage, d'autres du marketing. Des voix qui portent donc ce matin dans la presse, mais également des voix qui comptent pour le business comme pour la politique.
Et ces voix font la une de la Voix du Nord, tiens.
Et voilà. Mais il s'agit des voix qui s'expriment à l'occasion d'un scrutin. La proportionnelle, jusqu'où se demande la Voix du Nord, alors que 74% des Français sont favorables à ce mode de scrutin qui améliore la représentation de toutes les composantes politiques dans une assemblée. Macron propose de porter la dose de proportionnelle à 15%, mais avec la réduction annoncée du nombre de parlementaires, explique la Voix du Nord dans le projet de réforme constitutionnelle, c'est plutôt 25 à 50% de sièges attribués à la proportionnelle qui améliorerait vraiment la représentativité politique de l'hémicycle. Alors pour défendre leur cause et faire entendre leur voix, les partisans et les adversaires de la proportionnelle pourront lire ce mois-ci le supplément du Point sur l'éloquence et l'art de convaincre, à moins qu'ils ne s'intéressent aux nouvelles Eldorado numériques.
La voix qui fait la une du Nouvel Économiste paru aujourd'hui.
Bienvenue dans l'ère vocale, se réjouit l'hebdomadaire économique. Après le clavier, après le bouton, l'écran tactile, voici venu le temps de la commande par la parole. 100 millions d'assistants vocaux vendus dans le monde, des enceintes connectées qu'on interroge pour connaître la météo, le programme télé, allumer la radio ou faire ses courses. D'ici 2023, ces grandes oreilles se cacheront dans 8 milliards de nos équipements domestiques. Pas seulement les téléphones, tous les objets qui nous entourent dans la cuisine, la salle de bain et même la chambre à coucher, alors que je vois que mon téléphone, pendant que je vous parle, vient d'allumer Siri, alors que je lui ai rien demandé, il est en train d'enregistrer ce que je vous raconte.
Il me le fait aussi.
Il est incroyable ce téléphone. Il y en aura donc dans la salle de bain et même dans la chambre à coucher. C'est un enjeu commercial colossal, mais également un débat éthique.
sans précédent, oui. Après que le site américain Bloomberg a révélé hier soir que des oreilles humaines salariées d'Amazon écoutent 9 heures par jour jusqu'à un millier de conversations entre l'homme et l'enceinte Alexa foutue machine. Amazon s'est expliqué, ces écoutes servent à améliorer l'expérience des clients dont les employés de la firme ne connaissent pas l'identité. N'empêche, sur les forums internet, on se méfie. Après l'œil de Moscou, parlera-t-on des grandes oreilles de Washington, conclut le Nouvel Économiste. Alors après Alexa, il faut lire dans Ouest France ce matin le portrait de Laurence Brayette, une angevine. Elle est la voix française du personnage le plus toxique de la série Game of Thrones, une salope intersidérale qui est cette semaine à la une. Hein, la série Game of Thrones à la une de Télérama, de Science et Vie, du magazine oui. Historia et du hors-série très complet du mensuel Lire, dédié à la philosophie et à la mythologie de la série dont Europe 1 est partenaire. Cette comédienne double en français la terrible reine Cersei, mais aussi la reine d'Angleterre dans la série The Voice. Elle sait comment...
The Crown, pardon.
C'est un lapsus. Elle sait comment se terminera chaque épisode, mais défense d'en dire un mot. Quand elle entre en enregistrement, elle doit laisser son portable à l'entrée et oublier ce qu'elle a vu sur l'écran.
Tiens.
Autre voix que vous aviez peut-être oubliée, c'est celle-ci.
Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô,
Nabila qui se confie à Paris Match ce matin, cette semaine. Nabila assagit, Nabila emménage avec Thomas, l'homme de sa vie, le même qu'elle avait agressé au couteau, ce qui lui a valu 41 jours de prison. Elle est loin désormais la Nabila scandaleuse qui jouait les cruches pulpeuses dans les émissions de télé-réalité. Nabila vit désormais de son image, sponsorisée par des marques, et s'expose plutôt sagement sur les réseaux sociaux, nous raconte Paris Match. Il faut dire qu'elle attend un bébé, Nabila, de cet homme-là. Ça fait voir la vie autrement. Un bébé, Nabila épanoui dans les bras de son chéri, ça laisse sans voix. Nikos, je termine cette revue presse sur la voix sans avoir évoqué, sauf par un lapsus, le programme que vous présentez demain sur TF1 à 21h et qui s'appelle The Voice, évidemment par discrétion.
Et c'est bien la première fois. Et vous savez quoi, David Abiker, je vous veux dans mon équipe. Bonne journée à lundi.
C'était la revue de presse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et puisqu'on parle des voix, lui, il y a un cortège de voix absolument sensationnel. Tout le monde est là. Ouvrez le micro de David, s'il vous plaît, pour qu'on entende sa voix.
Mais il en a plein des voix, c'est Canteloup.
Mais évidemment, vous allez rester. Hein. On va rire ensemble. Et vous aussi, peut-être, vous êtes dans les embouteillages, vous êtes à la maison tranquillement, vous êtes connecté à l'autre bout du monde sur l'ordinateur sur europe1.fr. Canteloup est là et il y en a pour tout le monde. À tout de suite.
Il est 8h41, la revue de presse avec Optim Home, vos conseillers immobiliers experts et engagés tout près de chez vous.
Lorsque Julie est prête, Nicolas Canteloup n'est pas loin. On voit déjà la queue du loup. Il arrive. C'est parti. Ouais.
C'est presque de l'info, c'est presque du Nikos, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Eh bien justement, on va commencer avec vous Nikos pour le rappel du titre principal.
Ouais,
de
la... tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse, on vous écoute tout de suite Nicolas. Attention, on n'entend pas du tout. Alors pas du tout. On n'entend pas Nicolas. On va essayer par téléphone peut-être. C'est non.
Hier,
alors on me fait signe que là, ça ne marche pas non plus par téléphone. Alors par pot de yaourt peut-être. Non. Bon, on va essayer par pigeon voyageur. On a retrouvé la ligne. C'est donc l'actu surround de ce morning. C'est le vote blanc. Jean-Michel Apathy, expliquez-nous, c'est quoi le vote blanc?
Eh bien, mon cher Nikos, le vote blanc, c'est une aberration. Prenons un exemple. L'élection présidentielle de 2012, François Hollande est élu avec 52,88% des voix. Le vote blanc représente 4,32% des voix, mais au premier tour, il fait 19,67%. Si j'intègre le vote blanc avec la donnée X et la donnée Y, si un électeur X, un électeur Y, je pondère sur la valeur du Y et du vote blanc, 19,67% divisé par 4, ça nous fait A plus B au carré, je pense 19, je retiens 3, il faut que j'arrête de passer les soirées avec Cédric Villani, moi. En tout cas, ça fait chier de prendre en compte le vote blanc, ça sert à rien.
Et voilà.
Merci Jean-Michel pour cet éclairage toujours lumineux. L'actu actuellement, c'est bien sûr la loi Pacte, cette loi qui ouvre la porte à la privatisation d'Aéroports de Paris, mais aussi de la Française des Jeux. La Française des Jeux qui serait introduite en bourse permettant à tout le monde d'investir.
Et bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault.
Ah, Jean-Pierre.
Bienvenue, bienvenue pour cette introduction en bourse du loto. Nous allons tout de suite voir qui sera le grand gagnant de cette privatisation. Alors, les boules sont là. Il y en a même plein, il y en a beaucoup, oui, on dirait qu'il y a pas mal de monde qui a des boules avec cette privatisation. Procédons au tirage au sort, y a-t-il un gagnant? Oui, nous avons un gagnant, c'est un fonds d'investissement du Liechtenstein associé à une société chinoise qui emporte le loto, mais aussi l'organisation du loto et les bénéfices du loto. Alors à bientôt pour le prochain super gros lot, la prochaine super cagnotte à gagner. Ce sont les aéroports de Paris.
Ouais, super, merci Jean-Pierre. Allez, moi je vais aller m'acheter un tac au tac, histoire de participer un peu au budget de l'État. Oui, parce que jusqu'à présent, c'est toujours public, hein, le tac au tac, la Française des Jeux, c'est un geste citoyen. Chaque fois, sachez-le, chers auditeurs, chaque fois que vous grattez un morpion, vous ouvrez une crèche. C'est un super slogan, ça, pour la Française des Jeux.
Oh, classe. L'association.
C'est classe. Allez, à vous, Julie.
Merci, Nico.
Bravo.
Alors, justement, parlons un petit peu de cette loi Pacte et de la privatisation de l'aéroport de Paris avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit hier que ceux qui étaient contre cette privatisation faisaient le jeu des populistes. Bonjour, monsieur le maire.
Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Aliaga.
Bonjour.
Et bonjour aux autres, que je respecte, mais qui sont tout de même un peu moins bien.
Ça, c'est vrai.
Écoutez, sur la privatisation de ADP, il n'y a pas de débat. Être contre, c'est faire le jeu des populistes. Vous savez, Jean Moulin s'est battu pour qu'on ait le droit de privatiser des entreprises aujourd'hui. Et vous savez, qui d'autre était contre la privatisation des aéroports?
Non.
Staline. Staline, oui, Joseph Staline. Vous qui êtes contre la privatisation, vous me rappelez les heures les plus sombres de notre histoire. Mon grand-père, lui-même, était résistant. Il ne s'est pas battu pour que l'État gère 3 relais H, une brioche dorée et des boutiques de parfums qui servent de ring de boxe à Booba et Caris. Oui, je vous le dis, monsieur Aliaga, tout de go, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, j'ai mal à ma France.
Oui, bon, ça va, allez. On peut parler d'autre chose peut-être. Nathalie Loiseau, la tête de liste La République en marche pour les Européennes, a donné une interview dans Le Parisien. Elle y raconte sa relation avec Emmanuel Macron. Elle déclare « Il me dit merde, souvent, mais un merde affectueux, celui auquel on ne répond pas ». Alors vous aussi, vous avez la même relation avec le chef de l'État, Bruno Le Maire ?
Vous savez, Emmanuel Macron, le président Macron, pardonnez-moi, a souvent des petits mots gentils pour chacun d'entre nous. Ah. Il dit « merde affectueusement » affectueusement à Nathalie Loiseau, c'est vrai, je l'ai entendu. Mais je l'ai vu aussi taper sur l'épaule de Christophe Castaner en lui disant gentiment « T'es sympa, même si t'es un gros gland oh. ». Moi-même, ce week-end, il a eu ce petit mot qui m'a fait chaud au cœur. « Bruno, je t'aime bien, mais même si t'es un peu con-con ». Voilà, il communique franchement avec nous et c'est une preuve de proximité. C'est très agréable.
Oh là, qui est-ce?
Mon cœur saigne entendant tous ces mots.
Mon cœur saigne, c'est Gérard Collomb. Bonjour, oui, monsieur Collomb.
Mon Dieu, bonjour. Oui. Ça fait tellement de mal d'entendre et de lire des choses pareilles. Tout le monde a le droit à des mots doux, chuchurés à l'oreille par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre lumière, notre sauveur, notre phare au bout du tunnel. Et moi-même, je paierai pour qu'il me traite même d'abruti, qu'il me dise merde ou qu'il m'envoie me faire voir chez les Grecs. Oh. Et du coup, je viendrai chez vous avec plaisir, monsieur Aliagas, écoutez, joyeux. Emmanuel, dis-moi des gros mots.
Bon, allez, ça va. Merci, messieurs. On vous remercie tous. Hein. Écologie, à présent, on va rebondir sur un article étonnant des Échos. Partout où les municipalités ont abandonné les pesticides, les chaînes alimentaires se recréent. À Marseille, des battues ont même été organisées pour lutter contre les sangliers. Bonjour Jean-Claude Gaudin.
Ah, bonjour Madame Leclerc, Madame Dacoste, Monsieur Vicker, Monsieur Apathy, j'en passe des meilleurs, en particulier Monsieur Cabreol.
Alors, vous avez participé à cette battue contre les sangliers?
Oui, j'aimerais vous dire que ça s'est passé formidablement bien. Il y avait, oui, 2 sangliers dans les quartiers nord qui fouillaient dans les poubelles. Du coup, nous avons organisé une battue avec des amis chasseurs écologistes convaincus, les frères Scorsini.
Et les 2 sangliers sont morts alors?
Alors, que je vous fasse le bilan. Non. Malheureusement, les frères Scorsini, vous les connaissez peu, mais je vous le dis, ils visent très mal. Ils ont abattu, non pas les sangliers, mais par maladresse, les frères Fettuccini. C'est une bande de ribales qui gère le trafic de cannabis dans les Bouches-du-Rhône. Vous savez, mais oui, mais enfin, vous souriez, mais les accidents de chasse, ça arrive. C'est la faute à pas de chance. C'est pas de chance, tout simplement, pas de chance. Sauf, bien sûr, pour les sangliers qui, eux, pour le coup, sont rescapés.
Mais oui, c'est le problème de la balle perdue, ça. Hein.
Oui, le problème de la balle perdue. Enfin, il faut le dire vite, c'est pas une balle perdue, c'est tout de même 274 balles perdues, tout un chargeur. Nous sommes sérieux à Marseille. Nous avons recompté toutes les deux-houilles sur place.
Les deux-houilles.
Il y a d'autres mots qui riment comme cela, mais je ne vous les citerai pas.
Oui, bon, c'est vrai. On les a, hein, c'est
vous
bon.
Avez déjà parlé de Morpion ce matin, oui. Ça suffit. Voilà. Alors, à Marseille, vous savez, on chasse le sanglier à la Kalachnikov. Les traditions, ça ne se discute pas, ça se respecte.
Très bien.
Oui, alors, sinon, je peux prêter également un fusil, n'est-ce pas ?
Monsieur Le Pen, c'est vrai que vous êtes en procès pour détention d'armes. On a retrouvé chez vous des pistolets, un fusil à pompe, un LBD.
Oui, bonjour. Au besoin, l'armurerie Le Pen, n'est-ce pas, vous propose des fusils à sanglier et des petits pistolets à marcassin, n'est-ce pas, et des grenades de désencerclement pour cochons sauvages. Donc je le dis, n'hésitez pas avec l'armurerie Le Pen, dégommé sans peine. Pour le LBD, concernant le LBD, Julie, je tiens à vous rassurer, c'était juste pour une utilisation domestique. Si je voyais Philippot ou Marie franchir le portail du jardin, poum.
Merci, allez. Et à Paris, on est obligé de réguler certaines populations animales. On a appris cette semaine que dans la capitale, une dizaine de bénévoles d'une brigade citoyenne chassent les rats, notamment dans les squares. Bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour à toutes les Parisiens et tous les Parisiens. Eh bien, ça y est, j'ai le plaisir de vous dire que les beaux jours reviennent. Et pour en profiter, découvrez une formidable activité de plein air et de gauche. La chasse aux rats et aux rongeurs. Alors que la chasse à courre, vous le savez, est réservée à une élite privilégiée, eh bien Paris innove avec la chasse aux rats et autres rongeurs. Avec la saison des barbecues qui approche, c'est la promesse de barbecue réussi. On se régale déjà. Un bon rat grillé avec des poivrons et des oignons, quel délice.
Ah, Madame Hidalgo, vous aussi, vous avez donc des animaux errants. Moi, c'est les sangliers, vous, c'est les rats. Enfin, notez qu'à Marseille, nous en avons aussi. Ils sont là depuis tellement, ces rats. Ils sont là depuis que je suis maire, depuis 40 ans. Du coup, il y a une mutation génétique. Ce ne sont pas des rats tout simples, c'est des rats godins.
Ouais. Des rats godins, oh, que c'est beau.
Ou des scélérats.
Oui, vous n'êtes pas à barre de jeu de mots. Je pense, mais permettez-moi de reprendre.
Encore, monsieur Le Pen.
Des rats. Problème de rats. Invasion de rongeurs, les nuisibles s'attaquent à votre établissement ou votre ville. Utilisez notre fusil à rat ou notre mitraillette à souris. Disponible à l'armurerie Le Pen. L'armurerie Le Pen, dégommé sans peine, tout ça.
Bravo!
Wow. Grande forme, Nicolas. Bravo.
J'adore quand il passe d'une voix à l'autre. Il improvise beaucoup. Ouais. En fait, je vais expliquer à nos auditrices et auditeurs qui sont peut-être dans la voiture, qui attendent de. C'est ce que me disent les gens. On attend dans la voiture et ensuite on monte au bureau. Mmh. En fait, il y a plusieurs trames qui sont réactualisées tout au long de la matinale parce que l'info change avec Julie.
Julie arrive
toujours avec quoi, 5, 6, 7, parfois plus une 8e version. Mmh. Et pendant le jeu avec Nicolas, on voit aussi qu'il improvise à 30, 40%. Et voilà, c'est son talent et on est fiers de l'avoir dans la matinale. Nicolas Canteloup, merci aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange.
C'était la revue de presse qu'avec Optim Home. Pour réussir votre projet immobilier, faites-vous accompagner par un conseiller Optim Home. Optim Home, un réseau immobilier 100% humain, 100% engagé, 100% connecté.
Le tour de la question ce matin, direction le zoo de Vincennes avec notre Wendy Bouchard qui est sur place. Vous pouvez la retrouver sur europe1.fr en vidéo aussi. Tout à l'heure, je vous ai vu, vous étiez toute mimi à côté effectivement d'une cage, je vous ai vu, mais là je ne vous... Ah, ça y est, ça y est, je vous retrouve.
Le bassin des Otaries, vous voyez.
Voilà.
Chers amis, bonjour à tous. Wendy. Nous avons 80% d'humidité dans la reproduction d'un écosystème d'Amazonie-Guyane devant un bassin magnifique où je me trouve devant une valse de lamantins. Ce sont des animaux qu'on vous présentera, Bastien est soigneur et à mes côtés, ils sont quatre. Nous en avons un petit qui nous fait une ronde magnifique. Les lamantins, pour décrire à nos auditeurs, sont des gros mammifères. Ça ressemble un peu à une grosse otarie, pour faire un peu caricatural, mais ils sont superbes, Bastien. Ils sont quatre ?
Oui, c'est ça. C'est des animaux qui sont herbivores. Ils mangent beaucoup d'algues dans la nature. Et là, ils se nourrissent ici de salade, à peu près 30 kg de salade par individu.
Et ils sont superbes. Ils sont en apnée. On va les nourrir tout à l'heure sur l'antenne d'Europe 1. On commémore finalement les 5 ans de la réouverture du parc zoologique de Paris, chers amis.
Oui,
avec le respect aussi des conditions de bien-être animal. On est dans la nouvelle charte des nouveaux zoos. Et on vous en dira davantage. Il y a 1200 animaux représentés ici, 194 espèces. Ouais. On fait un petit tour en balade. J'ai piqué votre concept que j'adore.
Ah, vous le ferez à merveille.
Une superbe idée, cher Nikos. Donc on est en déambulation.
On entend d'ailleurs à la radio, on peut imaginer ce qui se passe. Ça, ce sera pour la première heure. Et un mot pour l'autre demi-heure. L'autre heure de 10h à
11h. C'est un artiste qu'on fête, Michel Sardou, 55 ans de carrière. Vous le retrouverez bientôt sur les planches en septembre. Mais on avait juste envie de revivre ses plus belles chansons et c'est quelque chose.
Magnifique. On vous retrouve dans 6 minutes. Sur Europe 1, Wendy Bouchard. Le tour de la question, in situ, en balade aux eaux de Vincennes ce matin.
Et à suivre l'essentiel de la matinale, juste avant 9h sur Europe 1.
Du soleil et du froid.
Oui, c'est vrai, une belle journée. Là où ça va rester perturbé, et ça toute la journée, c'est dans le sud-est, où on a des averses. Alors elles sont assez faibles ce matin, elles seront orageuses avec de la grêle cet après-midi. Pour les autres, grand soleil, on l'a dit. Petit bémol dans le sud-ouest avec des nuages ce matin. Et puis les températures, elles sont en baisse, on le sent bien. Ça va continuer à baisser jusqu'à lundi au moins. Et puis cet après-midi, la moyenne ira de 10 à 17 degrés du nord au sud, jusqu'à 20 degrés à Montpellier, mais seulement 15 à Bastia, sous les orages.
Merci beaucoup Céline Dacosta, tout à l'heure.
On revient, Nico, sur les moments forts de cette matinale.
Un coup de fouet pour l'emploi. Les projets d'embauche des entreprises sont au plus bas, plus 15% du jamais vu depuis 10 ans. Et pourtant, dans un pays qui compte 3,6 millions de chômeurs, les patrons ont du mal à recruter. Explication avec Axel de Tarlet, c'était dans le journal de 8h.
Vous avez 50% des patrons qui disent éprouver de fortes difficultés à embaucher. Pourquoi ? D'une part, les patrons recherchent des profils bien précis, des compétences spécifiques qu'ils ne trouvent pas. Alors ça, c'est tout le problème donc de la formation. Et puis d'autre part, on a aussi le manque de motivation des candidats pour des métiers jugés difficiles, jugés pénibles, avec des horaires décalés. Et donc malheureusement, oui, nombre de ces offres d'emploi, 2 700 000, ne trouveront pas preneur. C'est là un frein évident à l'économie française.
Axel de Tarlet. Le business du running, encore plus juteux que le foot. Un Français sur 5 pratique la course à pied. Beaucoup n'hésitent pas à casser leur tirelire pour bien s'équiper. Et les marques de sport l'ont bien compris. Écoutez le témoignage d'Isabelle qui va participer à son premier marathon dimanche à Paris. C'était à 7h20 dans Europe 1 va plus loin.
On dit, bon, faudra peut-être coter une montre. Donc j'ai regardé, j'ai acheté une montre, achat conséquent. De suite, je me suis dit, mes baskets, elles sont pas terribles, elles datent un peu. Donc je me suis acheté 2 paires de baskets. Si j'additionne toutes les dépenses équipement, préparation, alimentation, dossard, j'arrive à 1 260 €. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Parce qu'on dit que le running, c'est un sport qui est pas cher. Mais au final... ça chiffre.
Allez, à ce prix-là, on lui souhaite de prendre beaucoup de plaisir. Bon courage à Isabelle et aux 60 000 coureurs du Marathon de Paris ce dimanche. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci de nous faire confiance. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Bravo à toutes nos équipes techniques et éditoriales. Demain, c'est Bernard Poirette qui prend le relais à partir de 6h. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Julie, Céline, je vous embrasse. Tout de suite, Wendy Bouchard, le tour de la question en direct du zoo de Vincennes. Vous pouvez suivre également les images sur europe1.fr. Prenez soin de vous.
À lundi, Nikos.
À lundi.